Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 mai 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Comment allez-vous, ma chère
Victoria? Très bien, très bien.
Êtes-vous bien reposée par mes vacances?
Nous nous sommes ennuyés, mais je dis aux auditeurs tout de suite qu'il est très beau, il a bien profité pendant ses vacances.
Vous êtes bien aimable. Messieurs, bonsoir. Alors, je reçois ce soir Nicolas Bay, qui présente le MNR.
Bonsoir.
Je reçois également Aaron Upinski, qui n'est pas encore arrivé, et qui nous parlera de la Constitution, la surprise générale. Je reçois Michel Tassot et M. Prival, qui sont les représentants du CEP.
Dominique Tassot.
Pourquoi Ah non, mais j'ai vraiment un problème avec les prénoms. Hein. Non, ça, il n'y a rien à faire. Dominique, bien sûr, Tassot et...
Guy Prival.
Guy Prival, voilà. Je ne sais pas comment je vous appelle d'habitude. René Prival ou...
René, oui.
Oui, René, oui, c'est bon, ben voilà. Et puis, nous avons également Hugues Kerali et là, un scoop, le docteur Dor qui viendra nous parler à la fin de l'émission. Voilà, mais au téléphone tout de suite, notre globe-trotteur personnel. Comment allez-vous, Marquis?
Eh bien, je vais bien et je me réjouis d'apprendre que vous êtes bronzé, en forme, etc., etc. Il
s'agit de savoir en forme de quoi, surtout.
Oh, ben, on le sait. Sur la route de Venise, je vais vous saluer. Eh bien, sur la route de Venise.
Oh, voilà. Ben, voyez-vous ça. À peine rentré de Sainte-Hélène, voilà qui s'en va à Venise. La tentation de Venise, vous n'avez pas échappé?
Voilà. Non, j'y ai pas échappé. Avant que la voix méliflue de la guide m'interrompe, je voulais vous saluer les auditeurs, saluer Victoria, et vous dire à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, et si Dieu le veut.
Ça sera plutôt dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, je suis privé d'émission, comme vous le savez. Je n'ai pas le droit de m'exprimer en période électorale. Non, c'est pas du tout pour ça. Oui, bien sûr, on se verra. On se verra pour le bouclage de notre cher journal.
Voilà, très bien.
Merci d'avoir pris la peine de nous appeler. Il fait beau en Italie?
On alterne entre la pluie et le soleil.
Bon, ben c'est bien, c'est bien. Profitez du soleil et laissez-leur la pluie.
Merci.
À bientôt, Marquis.
Au revoir. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Voilà. Il a une vie difficile. Cet homme, il est toujours par Mons et par Vaux. C'est terrible. On peut peut-être couper le téléphone. Merci. C'est joli la tonalité, mais enfin, on s'en lasse assez rapidement. Quand même. C'est un peu comme le boléro de Ravel, mais plus répétitif encore. Bien, je me tourne vers Nicolas Bay. Nicolas, bonsoir. Vous avez été assez peu reçu. Le MNR a eu assez peu l'occasion d'exprimer sa position relativement au référendum. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ce soir pour nous indiquer ce qu'elle est. Je crois deviner que vous êtes plutôt favorable à un vote non.
Oui, en effet, je vous le confirme. Ça n'est d'ailleurs pas une surprise. Le MNR et Bruno Maigret ont pris position
contre ce traité constitutionnel qu'on nous propose. Non pas que nous soyons anti-européens, bien au contraire, et non pas que nous ayons peur, comme l'a dit bêtement Jacques Chirac il y a quelques semaines.
Car permettez-moi de vous dire que l'adverbe est totalement superflu en ce qui concerne, comme a dit Chirac, tout le monde met l'adverbe automatiquement.
Alors, le MNR s'engage en effet dans cette campagne pour le non au référendum, et s'il est vrai qu'il est relativement absent des grands médias nationaux, en particulier les télévisions et les radios, en revanche, nous menons une campagne de terrain intensive, nos militants sont sur le pont, et Bruno Maigret a effectué une tournée sur l'ensemble de la France, de toutes les grandes capitales régionales, où à l'occasion de conférences de presse, de réunions publiques, de dîners-débats, il a eu l'occasion d'exprimer notre position. Et il se trouve d'ailleurs que les médias régionaux, les télévisions régionales, les radios ou la presse locale, s'est fait l'écho de notre campagne assez bien, malgré, je dirais, le jeûne médiatique qui nous est imposé au niveau national. Mais je crois que c'est une volonté du système politique et médiatique de privilégier les tenants du non qui sont les plus caricaturaux, de façon à discréditer le non. D'où la présence de Buffet, de Le Pen, de Pasqua sur les plateaux de télévision, des gens
qui
sont...
Vous avez vu Pasqua? Moi, je l'ai pas vraiment... On l'a vu,
un petit peu,
beaucoup vu.
Un petit peu.
Ouais. Je regrette parce que je m'en lasse pas de Pasqua.
Bon.
Ah oui, c'est dommage, il n'a pas l'air en très bonne forme, mais on ne va pas le garder. Âge, quand même, finir en prison, c'est un peu pénible.
On voit bien que ce sont des gens qui sont en fin de parcours politique, qui ne proposent pas de vision européenne réellement constructive.
Mais en quoi votre nom est-il original?
Alors justement, on a en effet une position originale sur cette question, parce que nous ne sommes pas anti-européens, bien au contraire. Nous voulons justement fonder l'Europe, d'abord sur son identité, et ensuite assurer sa puissance et son indépendance. Et c'est précisément ce que ne fait pas ce traité constitutionnel. Alors, il est en réalité une usine à gaz continue à construire l'Europe sous un angle très technocratique, bureaucratique. C'est une construction juridique, alors que l'Europe, c'est d'abord une réalité qui repose sur son identité, c'est-à-dire son histoire, sa géographie, des frontières bien définies, et sa culture, sa religion dominante, le christianisme, la Grèce et Rome, qui ont façonné notre civilisation. Et sur ce plan-là, on voit bien que le système politique en général et les partisans du oui en particulier cherchent à évacuer totalement cet aspect des choses en ne focalisant le débat sur des considérations très secondaires. Ils ont d'ailleurs échoué dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Et aujourd'hui, ils refusent de se remettre en question, alors que ça pourrait être l'occasion de lancer un vrai débat, non pas sur l'Europe comment, c'est le débat permanent qu'on a, de traiter la question européenne sous un angle purement institutionnel. Il faudrait au contraire savoir répondre à la question l'Europe pourquoi.
Oui,
et nous essayons à notre place d'y répondre. L'Europe pourquoi? Eh bien, pour assurer sa puissance et son indépendance, c'est-à-dire lui permettre de rayonner de nouveau sur le monde. Alors, sur la question de l'indépendance, on voit bien aujourd'hui que sur le plan économique vis-à-vis des États-Unis, sur le plan culturel et civilisationnel vis-à-vis de l'Islam, l'Europe n'est absolument pas indépendante. Et rien n'est fait dans la Constitution européenne pour faire en sorte que l'Europe devienne réellement indépendante. Sur le plan militaire, par exemple, l'article 1.41 prévoit que l'Europe reste sous la tutelle de l'OTAN, c'est-à-dire de façon indirecte sous la tutelle américaine. Sur le plan de la puissance non plus, rien n'est fait. Ce qui serait intéressant dans la construction européenne, ce serait d'assurer la puissance monétaire, la puissance industrielle, la puissance militaire de l'Europe. Rien n'est fait dans cette direction-là. Rien n'est fait, par exemple, pour que l'euro soit une monnaie de change et de réserve. Rien n'est fait capable de concurrencer le dollar. Rien n'est fait pour que l'Europe ait une vraie stratégie industrielle pour empêcher en particulier les délocalisations en multipliant les initiatives du type Airbus ou Ariane. Rien n'est fait non plus sur le plan militaire pour organiser une vraie alliance militaire européenne qui nous libère de la tutelle de l'OTAN. Alors, pour toutes ces raisons-là, et évidemment pour la question centrale de l'identité, nous nous opposons à ce traité constitutionnel. J'insiste d'ailleurs sur la question de l'identité, parce que on voit bien que la question de l'entrée de la Turquie et la question de la constitution sont intimement liées. Contrairement à ce que prétendent de façon totalement fallacieuse certains partisans du oui, dont l'UMP, qui va même jusqu'à dire que c'est grâce à la constitution que la Turquie ne rentrera pas dans l'Europe. Tout ça est totalement faux, c'est une aberration, puisque précisément ce traité constitutionnel, il est, excusez-moi, je termine sur la Turquie. Il est taillé sur mesure pour faire entrer la Turquie.
C'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand on s'étonne que l'UMP mente ou prenne les Français pour des imbéciles, parce que ces gens-là sont au pouvoir depuis 50 ans, en gros, pour simplifier. Et donc, ils sont la preuve vivante que les Français votent comme des imbéciles. Donc, c'est normal qu'ils prennent les Français pour des imbéciles, puisque la démonstration est faite par le fait même qu'ils sont au pouvoir, qu'ils seraient restés au pouvoir un septennat, on pourrait comprendre. Bon, c'est pas... Mais un septennat, deux septennats, trois septennats, puis ça continue. De Gaulle, Chirac, Giscard, Pompidou, Chirac deux fois. Un peuple qui persiste à donner des chefs de cette dimension-là, c'est forcément un peuple de crétins, en majorité.
Je crois qu'il faut pas négliger non plus malheureusement, le bourrage de crâne, l'intoxication dont est victime le peuple français, comme d'ailleurs d'autres peuples européens,
qui les
conduisent à mal voter, à choisir des mauvais dirigeants, qui font évidemment des mauvaises politiques. Je termine, si vous permettez, sur la Turquie.
Je voulais pas vous conduire à dire du mal du président de la République.
Non, mais vous n'aurez pas de mal à dire du mal. Sur la question de la Turquie, parce que je crois que c'est très important. D'abord, on a vu que le traité a été signé déjà par le Premier ministre turc, M. Erdogan, et surtout, cette constitution est vraiment taillée sur mesure pour faire entrer la Turquie, parce que ce qu'on demande à la Turquie pour qu'elle rentre dans l'Union européenne, c'est d'adhérer à la charte des droits fondamentaux, aux droits de l'homme, etc. Et en réalité, la Turquie a une spécificité dans le monde musulman, c'est qu'elle est un pays laïque. Et ça, c'est une réalité, il faut bien le reconnaître, mais c'est une laïcité qui a été faite et qui se maintient par la contrainte, parce que Kemal Atatürk, au début du siècle, a imposé la laïcité à la Turquie et au peuple turc, en mettant l'armée dans une position tout à fait exceptionnelle dans les institutions. Et c'est l'armée qui est la garante de cette laïcité. Et ce qui fait d'ailleurs que la Turquie peut prétendre aujourd'hui à rentrer dans l'Union européenne, c'est qu'elle justifie d'une certaine occidentalisation liée précisément à cette laïcité. Et ce qu'on demande à la Turquie, c'est de cesser d'avoir l'armée dans une position où elle subordonne le pouvoir politique, c'est-à-dire en fait on veut faire sauter le verrou de la laïcité. On veut exiger de la Turquie pour qu'elle rentre dans l'Europe, qu'on fasse sauter le verrou de la laïcité, et on comprend d'ailleurs mieux pourquoi les islamistes dits modérés, mais qui ne le sont absolument pas, qui sont actuellement au pouvoir en Turquie, sont ravis parce que ça leur permet, eux ils sont évidemment très favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que ça leur permettrait de contourner l'obstacle constitutionnel qui existe chez eux et qui les empêche de faire de la Turquie un pays islamiste.
Bon, une dernière question toujours à propos de la Turquie. Je vous demande de répondre assez rapidement, si vous voulez bien. Quel était le sens exact de la proposition est-ce que c'était simplement une provocation, un gag ou une astuce de la proposition qu'a lancée Maigret au début de la campagne en disant à Chirac, si vous vous engagez à pas faire entrer la Turquie dans l'Europe, on s'engage à voter oui au référendum?
Oui, c'est pas exactement ça. Ça, c'est la relatation journalistique qui en a été faite, mais c'était ni un gag, ni une plaisanterie. C'était un défi. Un défi à Chirac, c'était il y a quelques semaines, le non était largement en tête dans les sondages, un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui, à 56 ou 58%, et donc il a, Bruno Maigret, à l'occasion d'une conférence de presse à Lyon, a lancé ce défi à Chirac, bah, puisque vous voulez faire gagner le oui, eh bien le seul moyen qui vous reste aujourd'hui, c'est d'opposer le veto officiel de la France à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et ça, ce serait peut-être susceptible de faire bouger un certain nombre d'indécis en faveur du oui. Voilà.
Donc ça n'a pas marché.
d'ailleurs, l'objectif n'était évidemment pas que ça marche.
Oui, il valait mieux.
Et Bruno Magan ne s'attendait pas, évidemment, à ce que Chirac réponde favorablement.
Il valait mieux éviter que ça marche, dans la mesure où la Constitution écarte le droit de veto pour les peuples, pour les pays membres de l'Union européenne. Par conséquent, Chirac aurait bien... puis très bien vous rapporte, oui, je mets mon veto et votez oui, une fois que vous voulez que la Constitution est passée, votre droit de veto, vous pouvez...
Ah ouais, ça c'est certain qu'une fois que la Constitution sera passée, notre position politique en Europe en sera évidemment très affaiblie si elle passe. Mais j'ai bon espoir, comme sans doute vous d'ailleurs, que le non l'emporte, parce que rien pour l'instant n'est joué, et on peut raisonnablement espérer que le non l'emporte, parce que le non est pluriel, et les gens ont toutes sortes de raisons de voter contre cette usine à gaz, qui est profondément antidémocratique et qui va évidemment à l'inverse des intérêts des Français et en particulier mais et puis de tous les Européens en général. Si vous permettez une petite conclusion sur ce point-là. Je crois que le non, ne créerait aucun séisme, aucun tsunami, comme certains l'ont dit. Il pourrait en revanche être fondateur, parce que cela permettrait à la fois sur le plan européen de réorienter, de poser d'abord les vraies questions sur la construction européenne, et peut-être à terme, de réorienter la construction européenne autour de l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance et la puissance de notre continent. Et sur le plan intérieur à la France, ce serait aussi un échec particulièrement cinglant pour toute la classe politique, puisqu'on a vu en 2002, lorsque Jospin a été éliminé du deuxième tour de la présidentielle, que les Français ont fait un rejet massif de la gauche socialo-communiste. Deux ans plus tard, ils ont fait un rejet avec les régionales tout aussi massif de l'UMP et de l'UDF. En votant pour la gauche, mais comme un pis-aller, pour sanctionner ceux qu'ils avaient élus deux années avant. Eh bien, en 2005, si le non l'emporte à la Constitution, ce serait l'échec de l'ensemble de la classe politicienne, de l'UMP au Parti Socialiste, en passant par l'UDF, et ça ouvrirait la voie à une vraie recomposition politique. En tout cas, ça créerait de vraies perspectives dans ce domaine-là, puisqu'on a vu à l'occasion de la campagne du référendum qu'il y avait des clivages profonds au sein de l'UMP, des clivages profonds au sein du PS et des incompatibilités totales en réalité de projets. Alors s'agissant de la gauche, je dirais qu'ils règlent leurs affaires entre eux, mais s'agissant de la droite, on voit bien que à l'UMP, il y a d'un côté des gens qui seraient amenés à se rapprocher du Parti Socialiste parce que sur bien des sujets ils sont d'accord avec eux. Il y a aussi des gens comme Monsieur Dupont-Aignan ou Monsieur Millard qui ont des positions proches d'une vraie droite nationale et populaire, avec lesquels à l'avenir on pourrait travailler. On voit par ailleurs que au Front National le déclin s'accélère. Et Le Pen fait en sorte qu'il n'y ait pas de succession. Donc tout cela peut ouvrir la voie à une vraie recomposition politique dans laquelle le MNR entend prendre toute sa place. C'est la raison de notre combat, en dehors évidemment la raison principale qui est la défense de la France et de notre civilisation européenne et chrétienne. Je termine, si vous permettez, sur une annonce qui est importante. Pour clore cette grande campagne que nous avons menée, le MNR organise un grand meeting à Paris le 24 mai, mardi 24 mai à 20h avec Bruno Maigret, un meeting pour dire non à la Constitution, non à la Turquie, et ce sera à la salle Chaillot-Galliera qui est au 28 avenue Georges V dans le 8e arrondissement à Paris. Voilà, je répète, salle Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V dans le 8e arrondissement à Paris, ce sera le mardi 24 mai à 20h. Voilà, les renseignements, vous pouvez téléphoner au 01 56 56 64 34.
Je crois que les amateurs de meetings vont être servis là ces jours-ci, parce que entre le meeting donc du MNR à la salle Chaillot-Galliera le mardi 24 mai, il y a deux meetings le 26, il y en a un qui se tient à la salle Chaillot-Galliera, il y en a un autre qui se tient je sais plus où, enfin je dois avoir ça quelque part. Il y a le meeting de Le Pen le 25
à l'espace Charenton à 20h30,
23 c'est à peu près tout ce que je peux citer de mémoire. Moi je fais pas de meeting, donc
et vous pouvez aller au meeting du MNR, vous y serez le bienvenu.
Oui, c'est gentil, j'irai bien à tous les meetings, mais disons que c'est une occupation quand j'avais 12 ans oui, ou 15 ans, mais là maintenant que j'ai largement passé 30 ans, c'est... Je suis moins passionné, il faut dire. Je vois. Gaillard, lui, il est ravi, il va toujours dans tous les meetings, il est content comme tout. Merci Nicolas d'être passé.
Merci à vous.
J'espère que votre nom gagnera, puisque c'est le mien aussi. Et c'est... Alors, bon, vous savez qu'il y a une règle. il faut respecter la, comment dirais-je, la parité. Donc, nous avons fait campagne pour le non, et maintenant, je vais vous demander, on va faire un peu de campagne pour le oui, si vous voulez. Donc, je vais vous demander de répondre par oui ou par non à la question que je vais vous poser. Victoria, est-ce que vous allez voter non?
Oui.
Bon, monsieur Dominique Tasso, est-ce que vous allez voter non?
Oui.
Monsieur Prival, vous allez voter non?
Oui.
Bon, et moi-même, je réponds oui à cette question. Donc, nous sommes tous d'accord. On a fait la campagne pour le non par l'intermédiaire de Nicolas Bay. Et maintenant, nous venons de faire la campagne pour le oui.
Voilà, et ça fait un sondage à 100% pour
100%,
le non.
100%. Et tout le monde répond oui. Attendez, c'est 5 et demi encore. Voilà, merci de votre visite. Ben, comme monsieur Upinski n'est pas arrivé, je vais bouleverser mon programme de façon acrobatique et je vais me tourner. Oui, je voudrais quand même dire un mot avant de me tourner vers Dominique Tasso et Guy Prival. Il y a une rumeur qui court, qui est tout à fait intéressante. C'est que on pourrait, je dis bien que c'est une rumeur, c'est pas une information, c'est pas un tuyau, c'est pas un scoop, c'est simplement une rumeur. Rumeur selon laquelle on pourrait avoir la surprise de voir Florence Obna et revenir en France 3 ou 4 jours avant la date fatidique du 29. Alors, je répète que c'est une rumeur. Que, à ma connaissance, rien ne vient étayer, mais ça permet quand même de faire un constat. C'est parce que tout le monde en parle. J'ai entendu ce bruit partout, tout le monde me dit ça, il paraît que Chirac s'est arrangé pour, etc. Ça montre quand même le degré de mépris que les Français ont pour le chef de l'État. Parce que visiblement, beaucoup de Français le croient capable de faire ça. Et c'est vrai qu'il l'a déjà fait 3 fois.
Ah oui,
ça serait pas la surprise du siècle. Mais là, quand même, ça serait grave, parce que ça voudrait dire qu'elle était libérable depuis longtemps et qu'il a encore une fois payé des gars pour garder au frigo un otage et pouvoir les libérer.
Ouais,
les
précédents américains avec l'arrestation du...
De Saddam Hussein. Oui, bien sûr. Enfin, les Américains, bon, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas du tout. En France, ça me gêne un peu plus quand même que les Français aient aussi peu de considération pour le président de la République qu'ils le croient capable de ça. Moi, j'en crois pas un mot, bien entendu. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. D'abord, j'ai du respect pour la République. J'ai du respect pour les présidents, et quand ils sont présidents de la République, c'est même pas du respect, c'est de la dévotion. Donc je n'y crois pas. Mais enfin, quand même, j'espère que les ravisseurs de Florence Omna vont pas manipuler l'opinion publique en la libérant pour faire croire que c'est Chirac qui a arrangé les bidons pour que ça se produise, afin que l'opinion publique révoltée vote contre... Enfin, c'est compliqué, ces histoires, vous voyez.
Ben, c'est compliqué pour eux.
Oui.
Parce que c'est quand même l'inconvénient de la technocratie. C'est que comme les décisions sont prises tout à fait indépendamment du vote populaire, il y a un moment où il faut quand même que le peuple rejoigne ce qui a été décidé pour lui. Oui, et c'est vrai que là, c'est là où les satrapes...
C'est ce que Mme Garraud nous avait expliqué. Quand elle est venue il y a 3 semaines, elle expliquait comment Giscard avait monté cette opération de la Constitution pour amener les Français petit à petit à l'évidence qu'on ne pouvait pas faire autrement que de voter une Constitution pour l'Europe. Alors que, évidemment, on peut faire autrement, il suffit de dire non. Et je pense à toujours à une blague, elle est un petit peu légère, enfin pas légère, oui, je la raconte quand même. C'est au moment où il y avait eu une révolte au Katanga, les gendarmes katangais étaient entrés dans une mission catholique et ils avaient violé toutes les bonnes sœurs sauf une. Et par un hasard extraordinaire, c'était une jeune bonne sœur ravissante, très douce, très gentille. Et alors les journalistes se précipitent et disent alors qu'est-ce qui s'est passé, c'était abominable, tout le monde a été violé. On dit non, c'est la jeune sœur là n'a pas été violée, elle. Alors les journalistes lui disent mais ma sœur, comment avez-vous échappé à ce sort tragique? Elle dit ben, j'ai répondu non. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire le dimanche 29. Merci monsieur, au revoir, à bientôt. On boira du champagne le dimanche, lundi, j'espère. Monsieur Tasso Dominique, de votre prénom, et non oui, pas, je ne sais pas ce que j'ai dit, non pas Michel, oui. Vous êtes le président du CEP, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Le CEP, c'est le Centre d'études prospectives et de prospectives sur la science.
Président et fondateur.
Président et fondateur. Et alors, je vous ai déjà reçu maintes fois à cette émission, et je suis un lecteur extrêmement attentif et toujours émerveillé de votre revue, qui s'appelle le CEP. Et vous m'avez envoyé, comme toujours, le dernier numéro. Et c'est un numéro qui est tout à fait passionnant, comme d'habitude. Je signale qu'il y a la sixième partie de la confession de Rakowski. Alors, la confession de Rakowski, on peut peut-être dire en deux, trois mots ce
oui,
que c'est.
Donc Rakowski, c'est un des fondateurs du parti bolchevique, qui a été ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, ambassadeur à Londres. Et en même temps, qui était un trotskiste. Et il s'est trouvé arrêté par Staline, au moment où la rupture a été consommée entre le Staline et Trotsky. Et de façon tout à fait étrange, un interrogatoire a eu lieu entre un émissaire de Staline, qui était un Français d'ailleurs, qui s'appelle Kouzmin parce qu'il avait pris un nom russe, mais c'était un Français d'origine, avec Trotsky, pour essayer évidemment de lui tirer les verres du nez. On sent que Staline voulait obtenir une compréhension des choses, et en même temps, Rakowski essaye de sauver sa peau. Et cet échange s'est fait en présence d'un médecin qui était chargé de droguer le cas échéant Rakowski pour le libérer des entraves et faciliter le discours. Et ce qui est très intéressant dans ce que j'ai appelé la confession de Rakowski, bon, c'est un interrogatoire, mais c'est presque une confession, parce que on a le sentiment que là on touche le vrai.
Ah oui,
parce que la haute politique, c'est un monde de mystère, puisque par définition, il ne faut pas dire ce qu'on va faire, sinon on ne peut plus le faire. Et donc, il est extrêmement...
Un expert dans ces questions qui vient de faire son entrée, qui est Arnaud Aron-Upinski. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous ?
Bonsoir, monsieur des spécialistes.
Oui. L'expertise, c'est autre chose que la spécialisation.
Non, mais parfois, tout ne ressemble pas aux apparences.
Alors, ceux qui ont fait l'histoire, évidemment, on publie des mémoires, mais évidemment, il faut les prendre avec des pincettes. Et là, on a un document qui n'est pas... C'est pas les mémoires Rakowski, c'est un document de travail.
Quel est le degré quelle est la garantie d'authenticité qu'on a sur ce document ?
Mais disons, je pense que pour moi, la garantie d'authenticité, c'est le témoignage de Knupfer. Donc Knupfer était né en Russie, son père travaillait à la cour du tsar, il s'est trouvé pris dans la révolution, il a essayé de comprendre la révolution, après il a vécu à Londres, il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le pouvoir mondial, sur le complot, donc Knupfer connaissait très bien la situation russe, il parlait parfaitement russe. Et ce document, lui, est revenu en Espagne par un légionnaire de la Légion Azul qui l'avait trouvé sur le corps du docteur Landowski, donc qui avait assisté à l'entretien, qui avait été chargé par Staline de faire le compte-rendu. Et qui avait eu le courage de faire trois exemplaires, alors qu'on lui en demandait deux. Hein, il a tapé à la machine, avec un carbone en plus. Bon, il a pris ça sur lui. Et ce texte, donc, est arrivé en Espagne. Et il a été publié en espagnol. Et Knupfer, si vous voulez, a pu confronter le texte russe avec le texte espagnol. Alors, c'est un petit peu comme des documents analogues. On n'a jamais la preuve. C'est la preuve interne qui compte. C'est la cohérence.
Il y a une cohérence totale. Et en plus, une cohérence avec tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on peut savoir par ailleurs sur le rôle de la grande banque internationale, sur le rôle de certains lobbies. C'est vraiment un document.
Ce qui me frappe depuis que j'ai commencé à publier par épisode ce texte, c'est que les commentaires que j'ai sont d'autant plus passionnés et intéressés que les gens ont une connaissance déjà plus approfondie de l'histoire. En particulier, j'ai un correspondant à Rome qui me téléphone après chaque numéro, et lui, c'est un ancien dirigeant des jeunesses communistes italiennes. Donc il a justement, il a aussi une approche,
oui, une approche intellectuelle
de la pensée de Rakowski. Mm-hmm. Il est professeur en université et après chaque numéro, il me téléphone pour justement me dire à quel point il trouve ce texte important et intéressant.
Je sais que quand j'ai lu l'intégrale de cette confession la première fois, je me suis dit mais c'est du roman pour les portières. Et j'ai commencé à faire des recoupements, à chercher. Et là, à mesure que j'ai avancé dans les recoupements, j'étais de moins en moins certain que c'était du roman chez la portière. Et finalement, maintenant, je suis convaincu que c'est un document authentique et que la cohérence interne est trop grande pour que c'ait été fabriqué par un faussaire. Enfin, c'est ouais, évident que le fond est extraordinaire. Ça, c'est vraiment si on veut comprendre ce qui se passe dans le monde, enfin dans le monde occidental, en tout cas depuis 60 ans. On ne peut pas vraiment bien comprendre les choses si on n'a pas lu ça.
C'est genre la conclusion de Kunfer que je vais publier dans le prochain numéro.
Là. L'épilogue que vous aurez dans le numéro 32 du CEP, qui paraîtra avant les vacances.
Là, c'est le sixième épisode. Donc si on veut se procurer l'intégrale de cette confession de Rakowski, il faut commander les six derniers numéros, le 31 et les cinq précédents. Du CEP.
C'est ça.
Alors ça, c'est un des aspects de vos travaux. Il y a un autre aspect qui est l'investigation archéologique et historique. Et là, il y a encore un article formidable de Claude Héon. J'en avais déjà parlé, d'ailleurs, sur la friche du Parthénon. Le déchiffrement de la friche du Parthénon. Alors, ça fait partie aussi des choses bouleversantes, parce que la friche du Parthénon, c'est dans tous les livres d'école, c'est dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres de grec, quand on faisait encore du grec en 6e, en 5e. Et on la voit, mais on ne la regarde jamais en réalité. Et lui, il l'a regardé et il l'a déchiffré. Et le résultat du déchiffrement, c'est tout à fait troublant.
Mais le résultat, au fond, est tout naturel. Si on admet l'historicité de la Bible, c'est-à-dire que l'idée qui est derrière, évidemment, l'article de Claude Héon, c'est que la mythologie n'est pas une invention pure et simple. La mythologie raconte, mais sous une forme aménagée, évidemment, des événements qui se sont passés, et c'est les dieux dont on parle sont, d'une certaine façon, nos ancêtres. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve de manière un petit peu générale, parce que le culte des ancêtres des Chinois, par exemple, c'est bien, bon, il y a une dimension religieuse, mais en même temps, il y a une dimension historique,
oui, c'est ça,
avec ces personnages. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'article de Claude Héon, ce qui est révélateur, c'est de pouvoir faire le lien entre les grands personnages de la mythologie grecque et les grands personnages du récit biblique.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, la cohérence est totale.
Oui, alors c'est totalement inattendu, parce que bon, en gros, on pourrait imaginer que ça consiste tout simplement à faire des assimilation entre Zeus et Jupiter, mais ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'au détail. Par exemple, le fait que, sauf erreur de ma part, Héon voit dans la figure de Chiron, du centaure Chiron, qui est le professeur qui va être le professeur d'Hercule, il voit la figure de Cham, la figure biblique de Cham, le fils de Noé.
C'est ça, oui.
Et alors, il développe cette investigation sur l'analogie entre les textes fondateurs des civilisations européennes et occidentales, et avec une espèce de génie du rapprochement qui est vraiment qui fait de ce document une lecture passionnante.
On a l'impression de comprendre la mythologie grecque.
Ouais, ouais. Beaucoup de choses s'éclairent, effectivement.
Oui, évidemment, il y a la mythologie comme une histoire, comme une interprétation des caractères, etc. Et là, on se raccorde avec l'histoire vraie.
Par exemple, ça fait des années que je me disais, il y a quand même une ressemblance entre le mythe de Philémon et Baucis et le mythe de Noé, enfin l'histoire de Noé, le peuple qui survit, le couple qui survit à un déluge, à une inondation. Bon, et puis il y a cette image aussi du réensemencement de la terre en être humain par le fait qu'on jette des pierres. Que c'est dans la mythologie grecque.
Oui.
On recrée une humanité en jetant des pierres qui deviennent chères. Et on voit très bien à travers la lecture de cette frise du Parthénon, on voit très bien que ça procède très certainement d'une même vérité vécue très ancienne. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que les ancêtres, les grands aïeux, ont raconté à leurs enfants leur vie et la vie de leurs ancêtres à eux, et que les enfants répètent ça en l'adaptant à leur génie propre, enfin, et en font une mythologie ou un conte ou un récit biblique.
Voilà. Alors c'est là où justement il y a une différence. D'ailleurs que Saint-Pierre dans sa deuxième épître met bien en avant en disant ce n'est pas avec des contes soigneusement inventés que nous avons, parce que justement il y a une différence de nature entre le récit biblique qui lui se présente comme directement historique, et puis les différentes mythologies, que ce soit les peuples de la Chine, les peuples de l'Inde, les peuples de l'Amérique du Nord ou du Sud, où on retrouve les grands éléments comme le déluge, comme l'arche de Noé, mais toujours transformés, toujours
réarrangés,
compliqués.
Alors oui, c'est ça, compliqué.
Et c'est cette complication qu'on trouve dans les mythologies qui démontre l'invention humaine qui s'est surajoutée à la simplicité du récit biblique, et c'est une espèce de démonstration indirecte de l'historicité de la Bible relativement à la mythologisation de ces traditions qui se répétaient, qui se passaient dans les autres peuples.
Alors, vous êtes le CEP, enfin les chercheurs dans votre genre font l'objet d'une campagne généralement assez virulente de dénonciation des prétendus fantasmes ou de caractère réactionnaire ou du caractère non scientifique du travail que vous faites, en disant c'est pas possible, on peut pas considérer la Bible comme un texte sérieux, ou c'est une mythologie, c'est un compendium de fables, de contes bleus, rose et noir, et les gens qui disent ça en général sont extrêmement virulents et vous accusent, que ce soit vous ou les gens du Séché ou d'autres, de malhonnêteté intellectuelle et de travestissement historique.
Mais ça prouve que ça les gêne.
Oui, ça les gêne, mais ce qui est amusant, c'est que ces grands donneurs de leçons, ces grands vertueux, parfois se trouvent confrontés à des difficultés un peu ennuyeuses. Et vous racontez, là, dans le dernier numéro, dans la rubrique qui est toujours très amusante, Les Dessous de la Préhistoire, l'histoire du professeur Proch de l'université de Francfort. Alors je signale que Les Dessous de la Préhistoire, c'est une petite vignette qui illustre dans chaque numéro le sens de cette chronique, et on voit le diable en chair qui prêche, et il y a une bulle, donc comme il parle, une bulle qui sort de sa bouche, et on voit un singe. On voit une équation dessinée, c'est chimpanzé multiplié par racine du temps égale être humain.
Hein, il y a beaucoup de...
Voilà, donc c'est la fameuse
ironie,
la fameuse blague de nos ancêtres les singes. Moi j'ai fait des recherches sur ma propre famille, j'ai posé la question à mes grands-parents, il n'y a absolument pas de singes dans notre famille depuis très très longtemps, on a la preuve qu'on a toujours été des êtres humains.
Oui, mais là je crois
qu'il y a des gens, quand on les voit, on peut...
Cette bulle sort de la tête d'un diable, et je trouve qu'effectivement il y a dans ces inventions de la préhistoire quelque chose de diabolique dans la règle de l'ours. C'est une manière de faire perdre aux gens le sens de leur origine. On attache de l'importance à ses ancêtres. Même si c'est pas un culte, on sait bien que le connaître même dans des peuples dits primitifs, il est normal de connaître par cœur sa généalogie sur une quinzaine ou une vingtaine de générations, parce que c'est à la limite c'est le bien le plus précieux qu'on ait. Hein, les biens de matériel n'ont pas une importance décisive pour la conscience de soi. Par contre, la connaissance de la généalogie dont on est issu est extrêmement importante.
Mais c'est le sens même de votre travail.
Avec la fausse préhistoire, d'une certaine façon, on amène les gens à se désintéresser de la généalogie, parce que finalement, une fois qu'on sait qu'on descend du singe, ça n'a plus d'importance.
On peut voter oui.
Et à ce moment-là, on a aussi une dévalorisation de ce qu'est l'homme. Et là, il y a quelque chose de tragique dans cette fausse idée des origines qui malheureusement maintenant se répand avec les manuels, la radio, la télévision et ce qui s'ensuit. Les fictions télévisées, ouais. Parce que les films comme Sapiens, Homo Sapiens, ouais. quelques mois, c'est vraiment de la...
C'était d'ailleurs d'un ridicule achevé. Moi j'ai regardé quelques épisodes, j'en lis encore.
Mais c'est de la science-fiction.
Oui, c'est ça. Alors là, le docteur Proch.
Ah oui, le bon docteur Proch.
Le bon docteur Proch. Alors lui, il faisait pas dans le détail, puisqu'il avait daté de 27 400 ans avant Jésus-Christ, l'homme de Paderborn Zande, dont on s'est aperçu par la suite qu'il était probablement mort vers 1750. Alors, c'est quand même une petite erreur. Bon, on a droit à un delta d'erreur, en général, dans toute recherche scientifique, mais là, je crois que le delta, c'est pas un delta, c'est un océan. Et alors, on a découvert aussi, ce qui est très drôle, c'est que c'était un grand spécialiste des datations, hein, des datations au carbone 14.
Oui, mais alors c'est ce qu'on demande, évidemment.
Il avait des résultats formidables, il a découvert un fragment de crâne de 36 000 ans, enfin vraiment, pour un peu, l'homme serait né avant l'univers. Mais un beau jour, les policiers sont intéressés à lui, parce que accessoirement, comme il gagnait pas assez d'argent, il avait essayé de vendre la collection de crânes de chimpanzés du musée de Francfort, c'est ça ?
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, pendant 30 ans, il a fonctionné au bluff, c'est-à-dire que pendant 30 ans, il a lancé des datations qui étaient purement au pif, mais en fonction de l'intérêt qu'il pouvait tirer pour sa notoriété, des datations forcément très anciennes qui donnaient des ossements qu'il pouvait avoir. Et pendant 30 ans, personne ne s'est préoccupé de ce cas.
Il a fallu que ça se transforme en
courrier. C'est à partir de 2001, où il y a un de ses collègues qui est devenu un petit peu soupçonneux et qui a essayé de faire dater en Angleterre un crâne daté par Proch. Et pendant 30 ans, ça a marché. C'est comme le Gupta, qui est un géologue hindou, qui est un des Stakhanovis de la fraude, parce que lui, il a plus de 100 publications, Gupta, sur des fossiles. Alors, c'était extraordinaire, parce qu'il découvrait dans les Indes, c'est un hindou, des fossiles qu'on n'aurait pas imaginé propres à ces terrains-là. En réalité, il les achetait dans des magasins de fossiles aux États-Unis et il faisait semblant de les trouver en Inde. Et ça a duré pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'un étudiant australien qui était tombé sur un fait qui lui semblait un peu bizarre ait vraiment creusé la chose. Alors dans le cas de Proche, c'est un petit peu pareil.
Mais il y a un gag quand même dans le cas de Proche qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce type, il a travaillé donc pendant 30 ans. Il s'était fait offrir par le laboratoire de Francfort un magnifique appareil de datation au carbone 14 qui coûte très très cher, je crois. Hein.
Et il ne savait pas le faire fonctionner.
Les flics, en enquêtant, ont découvert que ça n'était jamais servi parce qu'ils n'avaient pas du tout comment ça marche.
Ah non, c'est le collègue qui était devenu soupçonneux. Ça a été plus loin parce qu'après, l'université, parce qu'un professeur d'université en Allemagne, c'est quelque chose. Hein, il ne faut pas lire cette histoire de Proch avec des lunettes françaises. Il faut lire ça avec des lunettes allemandes dans lesquelles le professorat universitaire est vraiment quelque chose de fondamental, presque dans la hiérarchie sociale. Le fameux docteur Proch, il s'est fait... Alors, le collègue était devenu soupçonneux, mais il n'avait rien dit. Et ça n'est que quand les policiers ont enquêté effectivement sur les crânes de chimpanzés que le cas de Proch a été est devenu public. Mais c'est quand même...
C'est jolie histoire. Il y a un papier de Sylvie Simon, qui est la grande spécialiste de la médecine criminelle, on pourrait dire, c'est-à-dire pharmacologie criminelle, la pharmacologie qui tue, qui vous a donné un article intitulé « Les drogues pharmaceutiques et les tueries qu'elles engendrent ». Moi, je ne serais pas étonné, d'ailleurs, du tout, qu'on découvre que la tragique affaire d'Orléans, ce garçon qui semble avoir tronçonné son frère, ça soit quelque chose qui soit lié à un accès de démence consécutif à l'absorption de médicaments. On est en période d'examen, c'est des gosses qui étaient visiblement excellents à l'école, qui devaient se bourrer de produits pour le matin pour se réveiller, le soir pour s'endormir, la journée pour s'exciter l'intelligence, et puis il a pété un boulon. Je ne serais pas étonné.
Ce que dit Sylvie Simon, c'est plus grave. C'est que, évidemment, on sait bien que les euphorisants, ça a une action, le Prozac, on se sent mieux, etc. Mais c'est que dans tous les cas de ces tueries abominables, cet euphorisant avait été prescrit par un médecin.
Oui, ben bien sûr.
Donc là, ça met quand même en cause gravement la manière dont on se sert de ces produits chimiques sans discernement.
Voilà, on ne va pas dire tout le numéro. Il est vraiment passionnant. C'est
vous
comme
avez
toujours,
la pétition des savants aussi contre le Big Bang.
La pétition des savants. Ah oui, à propos du Big Bang, mais ça, je.
Oui, surtout quand vous êtes fait épingler.
Oui, c'est très très drôle parce que on a publié effectivement dans le dernier numéro du Libre Journal un article de Blancy qui avait déjà fait un papier d'ailleurs sur le Big Bang et puis sur l'archéoraptor, le fameux chaînon manquant. Complètement inventé et fabriqué entièrement à la main par National Geographic pour trouver le chaînon manquant, enfin pour établir la parentèle entre les dinosaures et les oiseaux, dont il a montré que c'était complètement bidon. Et là, il a fait un papier sur le comportement bizarre de la planète Uranus. Et on a reçu une lettre, alors que je publie intégralement dans le numéro qui est sorti ce matin, de Jean-Paul Caillez, ancien conseiller régional ex-FN puis ex-MNR, membre de l'AFA et du WWF, longitude 18, plongeur écolo, président d'Europe Identité Champagne. Champagne pour tout le monde, bien entendu. Alors, ce monsieur nous dit que, alors lui, il fait pas dans le détail. C'est amusant parce que ça montre à quel degré d'hystérie, de démence peut conduire un certain enfermement mental lié au scientisme. Il nous dit, je ne souhaite qu'une chose, votre liquidation financière et votre disparition. Tout ça parce qu'on a publié un article pour expliquer que peut-être que le Big Bang était pas quelque chose de très très sérieux. Et alors, il dit, bon, enfin, il développe pas grand chose d'ailleurs, lui-même pas très développé. Et alors, il le dit, je voudrais lire ce texte, c'est extraordinaire. Vous n'apportez rien à notre combat, vous êtes des pitoyables parasites malades. Oui, comme vous l'écrivez si bien. Hein. Rassurez-vous, je ne risque pas de faire de pub à votre prose dans mon milieu, je ne souhaite qu'une chose, comme présent au National Hebdo, votre liquidation financière et votre disparition à la manière de celle utilisée par vos prédécesseurs, vos frères d'église sur les peuples païens, nos vrais frères amérindiens, celtes, germains, huns, etc. Camarades inquisiteurs et créationnistes, je ne vous salue pas. Voyez, je ne me cache pas, contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai horreur de l'anonymat. Jean-Paul Caillez. Mais, c'est ça. Je n'attendrai pas que vous installiez de nouveaux bûchers pour nous éliminer définitivement. On en viendra aux mains s'il le faut. Un bon coup de pied au cul ne vous fera que du bien et vous remettra les neurones en place si je le pense sincèrement. C'est le genre d'argumentation que dans le débat scientifique.
C'est un peu limité.
Tout à fait. Bon, lui pourrait peut-être être le. Quand on a publié sa photo, quand même, à mon avis, il est en bonne place pour être le fameux chaînon manquant. Voilà. Tout
il
ça pour
dire
que c'est pas.
Hein, où on peut lire le CEP, alors, pour.
Alors, oui, absolument. Alors,
récapituler tout ça.
Conformément à la tradition, M. Prival va nous donner tous les renseignements techniques.
Alors, si vous êtes en Île-de-France, il y a 4 librairies à Paris. Il y a la librairie France Livre, rue du Petit Pont. Il y a Duquesne Diffusion. Il y a la librairie Gaîtier, près de Notre-Dame d'Auteuil. Et la Licorne Bleue. Et si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez vous adresser au secrétariat du CEP, qui se trouve aux 4 rue de Beauvais, comme la ville, 91 410, à Saint-Cyr, sous Dourdan. Le téléphone et fax 01 60 81 27 24 et le courriel,
s'il vous plaît.
Je répète, le téléphone et fax 01 60 81 27 24. Le courriel s.cep, s comme secrétariat, cep comme CEP, @wanadoo.fr.
Eh bien, je vous remercie, monsieur Prival, d'avoir pris la peine de vous déranger. Est-ce que vous organisez un colloque prochainement?
Au mois d'octobre.
Le 15 et 16 octobre.
Il se tiendra à Angers. Et les abonnés et les prospects qui recevront le numéro 32 qui paraîtra fin juin en auront le programme complet avec le bulletin d'inscription et les détails in extenso.
Merci beaucoup à tous les deux. Encore une fois, j'invite les auditeurs de cette émission à lire votre excellente revue qui s'appelle le CEP et qui est vraiment à chaque fois un motif de réjouissance, de satisfaction intellectuelle et un grand plaisir. Voilà. Merci, à bientôt.
Merci.
Eh bien, nous allons revenir à des sujets plus austères, cher Arnaud Aron Upinski. Nous allons revenir à la question européenne. Alors, moi, ce qui m'a étonné quand même, c'est que vous avez publié deux livres sur la question européenne, L'Europe, c'est la guerre, et l'autre, le titre m'échappe pour l'instant, mais ça vous reviendra certainement à vous, Le syndrome de l'ortolan, voilà. Pourtant, quel beau titre.
C'est gastronomique.
Et on vous a pratiquement pas entendu pendant cette campagne. Pourquoi êtes-vous resté dans ce silence boudeur, jaloux, je sais pas comment il faut dire.
Non, mais vous savez, il y a plusieurs manières d'être présent. C'est pas toujours, c'est que ce sont les personnes qu'on entend le moins, que parfois qui sont le plus écoutées. Bon, donc, et bien en plus, il faut anticiper. C'est-à-dire que j'avais effectivement écrit deux livres, complet, Lettre ouverte à ceux qui croient encore que l'Europe c'est la paix. Et le titre que j'avais choisi, mais Albin Michel avait préféré changer, c'est L'Europe c'est la guerre.
Donc, je trouve que c'est un bon titre.
Statut, faut être clair. Bon. Et cinq ans après, donc, j'avais écrit Le syndrome de l'ortolan. Hein, donc, qui montrait comment le modèle que j'avais détaillé en 92 fonctionnait, et c'est un modèle extrêmement simple, c'est l'inversion. C'est-à-dire que blanc, c'est noir, etc., etc. Et le sous-titre le plus important dans le syndrome de l'ortolan, c'était « Appel au président de la République pour qu'il révèle la guerre que nous font les États-Unis et sorte ainsi la France du piège européen ». Bon. Donc, effectivement, je n'ai pas été présent de manière très audible, mais les concepts ont suivi leur chemin. Et actuellement, on est en pleine confirmation du diagnostic et surtout du modèle. Bon, parce que ce qui est très paradoxal, c'est que en fait, quand on écoute, de toute façon, le sujet n'est pas vraiment traité. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être à l'école, à la maternelle, dans laquelle les gens font des additions ou des multiplications sans connaître la table de multiplication. Parce qu'en fait, on marche à tous les coups. À une époque, certains hommes politiques avaient repris la formule, c'est exactement l'inverse. C'est tellement simple que c'est presque gênant. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est la paix, donc c'est la guerre. Mmh. Bon, on vous dit que Mitterrand avait dit qu'il y aura 5 millions de chômeurs en moins, donc 5 ans après, 5 fois 5, 25, j'ai dit, ben c'est 5 millions de chômeurs en plus, etc., etc. Et alors, c'est une figure très intéressante, et je ne vais pas faire une comparaison avec le linceul de Turin, mais enfin, c'est toujours très intéressant de voir des gens très intelligents qui se demandent si c'est plus l'infini ou l'infini. Mmh. Parce qu'en principe, il y a quand même certainement un test. C'est comme l'eau est-elle extrêmement chaude ou est-elle extrêmement froide. Bon. Et donc, on est dans cette situation. Alors, il y a les personnes qui vous disent article temps et l'autre article temps, etc., etc.
Mais ça, c'est pas inutile quand même de développer le détail de la proposition, même si c'est pas essentiel. Mais vous croyez que ça sert à égarer les esprits?
Ben, si vous voulez, c'est pour ça qu'en mathématiques, on a inventé des formules. C'est pas pour toujours refaire la même opération. On lit dans certains livres qu'à une certaine époque, quand les personnes ajoutaient 3 vaches plus de vaches, ils pensaient qu'il y avait un certain type d'opération. C'est l'opération des vaches pour ajouter les vaches. Mais quand c'était des moutons, 3 moutons plus 2 moutons, pas que c'était la même opération. Paraît-il, je n'en crois rien. Mais c'est un petit peu la situation actuelle. C'est la situation actuelle. Parce qu'en fait, si vous voulez, Aristote avait une formule extrêmement bonne, il disait que tout corps tombe vers son lieu. Bon. Et donc, du point de vue opérationnel, ça veut dire que quand vous voyez la queue d'un chat, eh bien, vous savez derrière qu'il y a un chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le détail? C'est-à-dire qu'il y a un chat.
Devant, plutôt.
Il y a des gens qui regardent et qui disent, tiens, il y a des poils de chat. Oui. On va regarder ailleurs, tiens, il y a une queue de chat. Oui. Bon, et puis personne ne dit, c'est un chat. Et j'appelle un chat et Roland Fripon.
C'est aussi la fameuse parabole de l'éléphant vu par un aveugle.
Oui, alors il y a une très belle phrase de cet aveugle, peut-être dont vous parlez voyant, c'était Poincaré, qui disait « Celui qui n'aurait vu l'éléphant qu'au microscope, que connaîtrait-il de cet animal ?» Donc c'était très étonnant. Alors c'est très amusant parce que chacun est étonné de retrouver dans le détail ce qui est en gros. C'est-à-dire, mais personne ne nomme ce traité. Et c'est là, c'est pour ça que je souhaitais...
Mais alors, puisque... Bon, on arrive maintenant bientôt au bout de la campagne. Si vous deviez définir l'essentiel du problème posé, l'essentiel de l'enjeu, qu'est-ce que c'est?
Bien, si vous voulez, je pense qu'il y a trois niveaux. Au début, quand je souhaitais intervenir, parce que bon, c'est toujours amusant de voir comment les choses se déplacent, mais de temps en temps, c'est amusant de dire la solution. Vous savez, comme quand vous avez des élèves. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois choses importantes, mais ça dépend à quel niveau on se place. Bon. Ce que je comptais vous dire au départ, c'est uniquement la chose la plus élémentaire que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, chacun de nous doit prendre une décision. c'est pas très compliqué. C'est oui, non, ou alors je vais à la pêche. Bon, donc c'est ça. Mais on va en parler dans quelques minutes. Mais on peut élever le débat. Parce que moi, ce que je trouve atterrant, c'est qu'il y a des gens extrêmement intelligents, mais qui, comme je vous dis, réinventent l'addition. Bon, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il? C'est la fameuse phrase de Foch, de quoi s'agit-il? Et personne ne dit de ce dont il s'agit. Et il y a une chose qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est la dimension du comique et du dramatique. Vous avez dit que c'est plus austère. D'un certain côté, c'est très drôle. Bon, la Révolution française, d'un certain côté, est extrêmement drôle. Bon, d'un autre côté, elle est tragique. Et le tragique et le comique, ça fait le tragicomique, et l'histoire est faite de tragicomique. Bon. Alors, ce qui est essentiel de comprendre, je pense qu'il faut quand même l'introduire, non pas... Tout le monde fait de la géopolitique. Bon, on va faire maintenant de l'histopolitique. Hein, c'est plus important que la géographie, bon, dans ce domaine. C'est-à-dire que si on regarde les choses maintenant, si vous regardez les choses en deux minutes, effectivement, vous ne comprenez rien. Il faut prendre du recul. Bon. Et actuellement, les personnes ont l'impression que les États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais si vous placez il y a deux siècles, les États-Unis n'étaient rien et la France est tout. Et maintenant, pour faire très très court, il semblerait, je mets ça en conditionnel, que les États-Unis soient tout et la France n'est rien. Bon, alors si vous êtes en quantitatif, M. Giscard d'Estaing, qui est un très bon polytechnicien, un très bon mathématicien élémentaire, dit c'est 1%. Il y en a qui calculent. Mais au niveau, quand on se place du point de vue de la qualité, ça n'a rien à voir. C'est pas la quantité. Or, qu'est-ce qui est important actuellement, c'est de comprendre que nous sommes en fin de partie. Bon, j'ai pas dit qu'elle sera forcément maintenant, mais c'est la fin de partie de quoi ? D'un jeu extraordinaire qui est le jeu de mystification du monde anglo-saxon vis-à-vis du monde latin. C'est ça le sujet. Bon, et Tocqueville le dit d'une manière assez extraordinaire, il parle des Indiens quand il dit que effectivement quand on compare la civilisation, c'est-à-dire la colonisation espagnole donc latine et la colonisation anglo-saxonne, la grande différence c'est qu'évidemment les Espagnols ils tuent, ils pillent, ils violent, etc. Mais quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Tandis que les anglo-saxons, ils ne s'arrêtent jamais. C'est une très très grande différence. Et ce moyennant quoi, on peut faire l'addition, c'est comme pour Maastricht, on va le faire pour le traité européen, c'est qu'au bout du compte, quand même, il y a encore des Indiens en Amérique du Sud, et il n'y a plus d'Indiens en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus efficace que l'autre. Bon. Et comment est-ce qu'elle marche? Quelle est la clé du méthode anglo-saxon? Ben, c'est le traité. C'est le juridique. Il y a une très belle page de Tocqueville auquel je renvoie les lecteurs. Et donc, ce que dit Tocqueville... Et
la démocratie en Amérique, il faut le lire absolument.
C'est qu'il dit que tous les traités anglo-saxons sont traités. Et là, on commence à rentrer dans le sujet. C'est un traité. Et c'est un traité truqué. Bon, effectivement, quand vous voyez un traité, si on vous fait signer un contrat, là j'invite mes auditeurs à utiliser ce principe très simple, on leur présente un contrat auquel ils ne comprennent rien. Ils vont voir deux spécialistes. L'un spécialiste dit que c'est blanc, l'autre c'est noir. Est-ce qu'il faut signer? Eh bien c'est non. Bon, ça c'est le principe.
Je ne sais plus qui disait, moi je ne signe pas un contrat de location d'un appartement que je n'ai pas visité, dont on ne me donne pas la clé, dont on ne m'indique même pas l'adresse.
Et si on n'a pas vérifié qu'il y a le métro qui passe au-dessous, ouais, par exemple. Donc on est dans cette situation que j'ai qualifiée de guerre de représentation. Bon, c'est une guerre qui fait des morts. Et Mitterrand d'ailleurs, et dans le film de Benhamou, il ne l'a pas repris, mais Mitterrand avait très bien dit que c'était une guerre à mort avec les États-Unis, oui. Une guerre à mort sans mort apparente, si il y a des morts apparents, mais c'est une guerre de dépopulation, et quand on prend le différentiel par exemple de natalité entre l'Europe et les États-Unis, on a compris, c'est une destruction de natalité, mais par le biais du chiffre qui est mon sujet. Bon, et donc le sujet, c'est une guerre de représentation. Évidemment, on va aussi vers, on nous prépare la guerre aussi, on va en parler, et je dis au cas où j'oublierai, c'est que c'est donc inversion, guerre de représentation. Et dans une guerre de représentation, évidemment, quand on trompe, ce n'est ni un peu plus ni un peu moins, c'est exactement l'inverse. Donc tous ceux qui vous disent on avance un petit peu, etc., ce sont des super menteurs, comme on disait à une époque. Mm-hmm. C'était que la question, c'est l'essentiel. Alors, je reprends.
Il y a un exemple, pardon, dans de ce mensonge par inversion pure, qui est la prétention de représenter la Constitution ou le traité constitutionnel comme un remède au déficit démocratique. On entend ça.
Oui, ben alors ça c'est très amusant. Si vous voulez, c'est ce que j'appelle le coup du lapin. Déjà en 1977, donc le temps passe. Et pourquoi je ne suis pas présent? Parce que je travaille et que nous sommes, je le dis en passant pour les lecteurs qui n'auraient pas lu, disons qu'enquête au cœur de la censure, dans le système de censure le plus puissant de tous les temps. Mais par rapport à ce que vous dites, il faut quand même un petit peu faire appel un petit peu à son intelligence. Je voudrais le dire, mais c'était ce que j'appelle le coup du lapin. Quand un lapin qui est pris à un collet, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il vaut mieux pas bouger. Parce que plus il bouge, plus il est serré. Or, l'astuce actuellement, c'est qu'on nous dit, pour reprendre ce sujet de la démocratie, on nous dit que le déficit de démocratie va être comblé, soi-disant. Mais donc, s'il doit être comblé, c'est qu'il n'y en avait pas. Bon. Et on nous dit, on nous promet au niveau européen, finalement, ce qu'on nous refuse, même au niveau français. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a aucune démocratie. On est dans un système antidémocratique de censure. Et ceux qui sont les censeurs en France nous disent qu'ils vont réduire ce que dont nous souffrons en France et en Europe. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent simplement de signer un chèque en blanc. C'est-à-dire abandonner. Qu'est-ce qu'on nous demande, en fait? Nous sommes actuellement un entier, c'est-à-dire un peuple souverain, et on nous propose de devenir une fraction. Bon, dit donc, si vous devenez une fraction, évidemment, vous allez, ça sera beaucoup plus démocratique. Et en fait, on demande d'abandonner tout pour rien. C'est ça, le principe. Et ceux qui ont un petit peu le sens des affaires savent ce que c'est, que ça soit 9% ou 13%. Et d'ailleurs, Chevènement disait d'une manière extrêmement lumineuse qu'on nous promet que ça augmente. En fait, ça baisse, si vous voulez. Mais de toute façon, 13% égale zéro. C'est-à-dire que il y a un point extrêmement important sur lequel il n'en a pas été insisté, c'est que nous sommes dans une démocratie, disons, représentative, ou soi-disant représentative. Parce que quand vous avez une image qui est l'inverse de la vôtre, on est dans cette inversion, c'est qu'elle n'est pas représentative. Et le drame français, c'est qu'on a finalement des représentants qui ne nous ressemblent pas du tout,
qui ne nous aiment pas,
et on pourrait même dire à les entendre qui méprisent et qui détestent. C'est ça le drame actuellement français, c'est qu'on a une contre-représentation.
Ils sont d'ailleurs enfermés dans un dilemme compliqué parce que ils se comportent exactement comme des poux. C'est-à-dire que le poux, il aime pas l'animal sur lequel il se trouve, il aime pas la tête. La preuve, c'est qu'il lui fait du mal en piquant et il lui vole son sang. Mais en même temps, il peut pas s'en passer. Les hommes politiques, c'est des poux. Ils sont sur la tête du peuple, ils en profitent, mais ils le détestent, mais ils peuvent pas faire autrement que de l'avoir.
Je reconnais votre goût pour la biologie.
Bon, vous avez parlé de la guerre deux, trois fois.
Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le qualitatif, ce n'est pas le quantitatif, lapsus révélateur, c'est le qualitatif. Bon, de quoi s'agit-il? Bon, bien entendu, chaque électeur n'a qu'une voix, mais c'est pas la question. De quoi s'agit-il? C'est que si vous étendez les choses il y a un millier d'années même, la France était la grande nation. Bon, et quel jeu fait-on jouer la France? Bon, c'est une question de ventriloquie, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux. Vous posez la question importante. On peut voir la question au niveau théologique, ou je dirais métaphysique, si c'est intéressant.
Ça, c'est ce que vous trouvez aussi dans votre livre à propos de la censure.
Mais c'est ce que disait Talleyrand, d'ailleurs. Talleyrand, qui on sait, si vous voulez, mais c'est un grand diplomate, et on est dans une affaire de procès. Il a dit que là où il avait le plus appris, c'est en théologie. Bon, donc on peut voir la question tout à fait par le sommet. On peut la voir par la politique, ou on peut la voir par l'électeur. Bon, alors ce dont il s'agit actuellement, c'est que la France était une grande nation et le monde anglo-saxon n'était absolument rien. Comment expliquer, d'ailleurs, puisque je rappelle que c'est la France qui a reconnu quand même les États-Unis. C'est la France qui a inventé d'une certaine manière les États-Unis, avec 42 000 hommes qui ont été envoyés dans ces pays, bon, et avec la reconnaissance que l'on connaît. Eh bien, c'est que la France et le monde latin représentaient un certain nombre de valeurs. Bon, et ces valeurs, je les appelle réalistes, et c'était des valeurs qui ont dominé l'Occident pendant une certaine époque. Et puis, il y a un contre-modèle qui est rentré. Et si on prend les choses à partir du 18e siècle, à partir notamment de la guerre de 7 ans, au 18e siècle, avec la France qui s'est battue pour le roi de Prusse, on a la France qui a été instrumentalisée, je dirais ventriloquée, par le monde anglo-saxon. Et c'est le système de Dupri le plus extraordinaire qu'on ait jamais imaginé. C'est-à-dire que, donc, d'abord, les Français ont payé la guerre des États-Unis, alors que la France avait été chassée par les insurgents, il faut pas l'oublier, oui, du Canada. Et puis après, ils se sont appropriés toute l'Amérique du Nord, finalement. Bon, ensuite, les Français ont financé, etc., etc. Et on arrive progressivement, à partir du XVIIIe siècle, à avoir, pour la Révolution française, qui est un système anglais, c'est-à-dire que la France est à la remorque de l'Angleterre depuis la Révolution. Alors, on tue la bête lentement. C'est-à-dire qu'on le voit à la démographie. Les Français sont tués progressivement. Bon, le système politique anglo-saxon domine le monde latin. Et les Latins, évidemment, un gros défaut, c'est qu'ils pensent toujours en termes de pyramide. Les anglo-saxons ont le système de lobbying actuellement qui est à Bruxelles. Et c'est pour ça que dans le traité, on nous dit on va remplacer la démocratie représentative, c'est-à-dire celle qui est visible en termes de guerre de communication, et par le système participatif. Ce qu'on nous propose pour le fameux déficit démocratique dont on nous parle, c'est le système des lobbying participatifs. Bon, c'est ça qui est en jeu actuellement. Et évidemment, le latin est complètement perdu. C'est comme ça que les Français, finalement...
Ils comprennent même pas de quoi il s'agit, en fait.
Non, ils ne comprennent pas. On voit très bien rien, personne ne sait de quoi il s'agit finalement. Et donc ce dont il s'agit maintenant, c'est de boucler la boucle à partir des guerres, de ces guerres, disons, qui ont été instrumentalisées d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
La deuxième, sur la déclaration de guerre.
Et maintenant, on est au bout du rouleau. C'est-à-dire que les Français n'ont pas du tout compris. Par exemple, la philosophie des Lumières, il y a des grands naïfs qui croient que c'est la philosophie française, c'est la philosophie anglaise. Mais comme le dit très bien Rivarol, par exemple, effectivement, les Anglais qui sont des empiristes ont bâti un système pratique et les Français y ont cru. Donc vous avez tous les séminaristes du XVIIIe siècle, je pense à Voltaire, je pense à tous les auteurs qui sont allés se faire recycler en Angleterre, qui ont cru à ce qu'on leur a appris, et vous savez, et qui ont fait cette philosophie qui est extrêmement intéressante, d'un certain côté, qui était mixte, et qui était en fait la philosophie anglaise, et qui a détruit le système français, le système politique français. Alors, on arrive maintenant au bout du rouleau, c'est-à-dire que les Français ont accepté d'être la chair à canon du monde anglo-saxon, à la Révolution, bon, et puis Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale pour ce qu'il en restait, et maintenant, on arrive au bout du compte. C'est-à-dire que ces Français qui ont naïvement cru aux idées enjôleuses du monde anglo-saxon, maintenant, il s'agit de signer maintenant l'arrêt de mort. C'est-à-dire que les électeurs, maintenant, vont être devant leur tombeau avec une pioche et on leur demande de creuser leur tombeau. Bon, mais c'est un système qui est connu. Vous prenez l'affaire d'Ils, par exemple. Ce qui étudie le système judiciaire, c'est comment on arrache une signature à quelqu'un, maintenant. Alors, effectivement, l'affaire d'Ils, c'est exactement le traité quand on harcèle les gens. Vous avez tous les policiers aux autres, tous les juges d'instruction qui sont autour de la victime. Et l'affaire d'Ils, c'est ça. C'est-à-dire qu'on finit, il finit par avouer, il dit, au fond, c'est pas grave. On vous dit simplement, signez que vous êtes coupable, ce n'est pas grave. Mais après, c'est là que les problèmes commencent. Ouais, et c'est ce qui va arriver. Alors, donc, la question qui se pose actuellement, c'est qu'effectivement, la France constitue encore un corps politique. Bon, les électeurs font partie d'un tout solidaire. Et maintenant, ce qu'on leur demande simplement, et c'est tout à fait nouveau, c'est d'accepter, si vous voulez, le viol de la démocratie au sens plein et grec du terme, par un acte final. Alors, il y a toujours une suite possible, comme le dit très bien Delors, d'ailleurs, qui a été harcelé, Delors. Parce que tout le monde sait qu'il y a un plan B. Il y a même un plan B, C, D, etc. On a obligé Delors à dire qu'il n'y en avait pas. Mais tout ce qu'il dit autour, quand il nie qu'il y a un plan B, veut dire, parce qu'il essaie de garder la fierté de lui-même, quand même, et qu'il y a un plan B. Et donc la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que vous acceptez de n'être rien? Parce que ce qui est visé, c'est la France. C'est-à-dire que, bien entendu, la seule qualité, je dis bien la qualité, qui peut s'opposer actuellement, je veux dire, au modèle anglo-saxon, c'est la France. Donc ce qui est visé, d'ailleurs tout ça, ce n'est pas évidemment tous les pays qui composent, c'est la France. J'écoutais hier Paul Reynaud, qui parlait de la construction, évidemment, de ce système, et il disait que, évidemment, c'était les États-Unis qui seraient le fédérateur de ce qu'on appelle maintenant le système atlantique. Et puis, comme on lui faisait remarquer que c'était un petit peu loin, il disait, bon, ça va être la France. Donc, en fait, la France, c'est pour ça que Giscard d'Estaing a été choisi. C'est-à-dire que la France est la seule qualité qui compte actuellement en Europe, en face du monde anglo-saxon. Et pour la réduire, on fait ce que les anglo-saxons font dans le système de Gulliver, c'est qu'on attache, évidemment, la proie, finalement, pour la dominer. Et on peut dire, bon, bien que l'histoire ne soit jamais totalement écrite, que si, par malheur, le nom passait, on sait qu'il est majoritaire, le fond. Il est structurellement majoritaire, actuellement. C'est très bien. La question, c'est est-ce que le non massif actuellement, surtout quand on enlève tous les profiteurs du système actuellement qui vont voter oui, eh bien, c'est de savoir si ce non qui est majoritaire, massivement majoritaire dans le pays, va se retrouver dans les urnes. C'est ça la seule question.
Alors, j'allais vous poser la question pour terminer. Quel est votre pronostic?
Eh bien, le pronostic, alors je viens vous le donner, c'est-à-dire qu'il est évident que je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, bon, moi j'ai des chiffres par ailleurs, mais peu importe, qui seraient au-dessous de la vérité, 55%. La question, c'est qu'effectivement, avec les moyens du terrorisme d'État qu'on a actuellement, qui sont mis en œuvre, c'est de savoir si, effectivement, l'électeur, et je vais donner le mot de la fin quand même, puisque vous le demandez, quelle est l'attitude? Bon, tout ce dont j'ai parlé sont des choses très intéressantes, mais l'essentiel, c'est quoi? Bon, c'est trois questions que doit se poser l'électeur en face de son miroir, parce qu'il se retrouvera dans son miroir quand il se rasera, ou si c'est une femme quand elle fera son maquillage. C'est la grande question, c'est premièrement, quel est mon intérêt? Parce qu'on essaie de faire voter les gens par rapport à d'autres choses. Bon, donc la première question, c'est quel est mon intérêt? Et l'intérêt, il est extrêmement facile de le mesurer par rapport à Maastricht. C'est-à-dire que Bérégovoy avait dit dans son discours d'investiture du 4 mai 92, Maastricht, donc le système actuel, c'est moins de chômage, moins d'insécurité et moins de corruption. Et nous avons eu l'inverse. Donc tout le monde le mesure, et c'est pour ça que le nom finalement a émergé, non pas par l'intelligence, parce que j'avais dit que en 92 que la solution viendrait des faits eux-mêmes. Chacun sait que ce système est mortifère. Donc l'intérêt de l'électeur, c'est non. Je ne parle pas de ceux qui profitent du système. Bon, deuxième question. Donc l'intérêt dit mathématiquement, c'est non. Deuxièmement, vous avez l'intelligence. Il est évident, si on prend le temps de réfléchir, ce système, on le voit très bien, est un système totalement antidémocratique. C'est un système qui roule uniquement pour les États-Unis. C'est un piège, je l'avais écrit et tout le monde le sait, qui nous met complètement à l'armoire des États-Unis. Une chose est très simple, les Anglais ne sont pas dans la zone euro et c'est la place financière de l'euro. Donc c'est un mépris. C'est-à-dire qu'actuellement, on pille les Français, on les ruine, les Européens éventuellement. D'ailleurs, on dit que ceux qui ne votent pas oui ne sont pas européens. Donc l'intelligence dit non. Et le troisième, et je dirais le plus important, c'est une question d'honneur. C'est-à-dire que lorsqu'on est méprisé par un certain nombre de personnes, eh bien l'honneur consiste à dire non. Voilà à peu près les trois questions essentielles si on ne veut pas élever le débat au-dessus.
Merci Arnaud-Henri Pinsker. Je signale que vous serez le 5 juin parmi nous pour présenter vos derniers livres, y compris d'ailleurs, je crois, le syndrome de l'ortolan et oui. L'Europe c'est la guerre.
Oui, donc...
Mais j'espère qu'on aura... Voilà, de bons motifs de vous.
Mais disons que le message, il est simple, c'est qu'il faut vis-à-vis de sa conscience se poser ces trois questions, et la réponse pour les honnêtes gens, si je peux dire, ne peut qu'être que non.
Merci beaucoup. Luc Kerali, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comme moi, on est un peu flabbergasté, non, quand on entend.
C'est magnifique.
Parce que c'est...
Les bras nous entendent. Moi, j'ai rapporté dans mon dernier livre un certain nombre de proverbes voltaïques, et il y en a un qui m'est venu immédiatement à l'esprit. Je crois que les premiers à n'y rien comprendre, et les premiers à creuser leur tombe, comme vous l'avez si bien dit, ce sont les politiques eux-mêmes. En Haute-Volta, à l'époque où ça s'appelait la Haute-Volta, on dit souvent la mort du chien ne saurait en aucune façon faire le bonheur des puces. C'est un petit peu ce que vous avez expliqué. Et j'avoue que, quant à moi, qui ne vote pas souvent, qui manque de convictions électoralistes, je vais me précipiter pour voter. Je vais voter non, bien sûr, et je vais encourager les gens à le faire. Alors, de la part d'un monarchiste, ça va sembler un peu curieux, mais j'aurai certainement une pancarte dans la rue pour expliquer pourquoi. Peut-être simplement cette petite citation, « La mort du chien ne saurait en aucun cas faire le bonheur des puces ». Merci de ce que vous avez dit, c'était magnifique et très convaincant.
Un mot d'un auditeur, parce que c'est magnifique, il dit « J'ai déserté Radio Courtoisie pour le débat entre Villiers et Perben ». Ça peut vous intéresser, Arnaud. De Villiers est en train de bouffer Perben en citant le texte de la Constitution. Perben lui dit « Arrêtez de parler du texte ». De Villiers lui répond « Mais c'est sur le texte qu'on nous demande de nous prononcer ». C'est quand même extraordinaire. Arrêtez de parler du texte, enfin. Écartons les faits, car ils sont étrangers à la cause, disait Rousseau.
Il a dit aussi que l'acte final où figure la signature de la Turquie était une feuille de présence.
Non, mais éliminer la Turquie, éliminer la Russie et mettre la Turquie, c'est bien dire que c'est pas une question d'Europe, c'est une contre-Europe. Et ça prépare la guerre.
Tout à fait.
Merci encore. Alors, Carly, je vous ai invité parce que vous venez de publier un livre qui est un véritable petit trésor. Ah. Je le dis alors de la façon la plus simple. Ça fait très longtemps qu'on vous entendait plus, qu'on vous voyait plus.
15 ans,
oui.
J'ai boudé pendant 15 ans.
Bon, j'espère que cette bouderie est bien terminée.
Pour un breton, vous savez, 15 ans, c'est pas beaucoup.
Je sais rien, oui, c'est vrai, c'est même pas un dixième d'une vie normale. Et alors, c'est un livre qui est extrêmement étrange parce qu'il rassemble deux choses qui sont apparemment inconciliables. C'est un livre de contes, de nouvelles, dit-on maintenant, oui. Ou de novellettes, diraient les Américains. Et c'est un livre de témoignages. Alors on peut dire, mais comment peut-on faire du témoignage à partir de... par l'outil du conte? Et vous apportez la démonstration que c'est oui, tout c'est à fait possible. Ça s'appelle La clé du songe et autres contes inédits. Et en fait... On pourrait dire que c'est un journal de journalistes déguisé en œuvre de moraliste.
Oui, parce que c'est vrai que 20, 15 ans, 10 ans après les fêtes, ça ne me paraissait pas très intéressant de sortir mes plus beaux scoops, les plus belles rencontres de ma vie. En fait, c'est effectivement une fiction entièrement autobiographique où tout est vrai de ce que j'ai pu vivre de plus extraordinaire dans ce que j'oserais appeler aujourd'hui ma première vie, celle que Jean Madiran a plus qu'autorisée, puisque je pouvais partir tout le temps que je voulais, 3 mois s'il le fallait, pourquoi pas 3 ans si le sujet s'y prêtait, pour essayer de comprendre des choses que on vous impose, des problèmes qui peuvent avoir 3 siècles, qu'on vous impose de comprendre en 3 jours et d'expliquer en 30 secondes aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Alors ça, c'est pas l'esprit du grand reportage français, celui qui a malheureusement quasiment disparu, puisque les budgets sont passés aux radios, ce qui ne s'appelle pas Radio Courtoisie, et aux télévisions. Et on voit aujourd'hui à quel point ça s'est dévalué. Je vais tenir un propos horriblement machiste, mais que vous comprendrez. Quand ça va très mal, quand il faut mettre un gilet pare-balles et un casque lourd, qu'est-ce qu'on trouve ? Patricia Lémonière et les autres, des petits bouts de bonnes femmes qui font ce qu'elles peuvent dans le budget qu'on leur accorde pour comprendre ce qui se passe et le raconter. Les hommes ont déserté ce métier. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que les Américains m'ont récupéré au moment où la presse française, comme le Figaro Magazine ou Valeurs Actuelles, ne parvenait plus à financer ces grands reportages. Donc j'ai pu, pendant toute la durée des années 80, qui a été celle de l'arrêt de mort de la presse écrite en ce qui concerne le grand reportage vécu et analysé sur place, j'ai eu cette chance, ça m'a permis bien de me faire couvrir littéralement d'insultes par tous les confrères de la presse française quand j'ai découvert qu'Amnesty International était qu'une courroie de transmission du Parti communiste français, de me faire à nouveau agonir d'insultes quand j'ai trouvé au Nicaragua la réalité de la théologie de la libération, les morts, les bombes, quand j'ai découvert au Salvador que la théologie de la libération, ça permettait d'assassiner un archevêque parce qu'il n'était plus d'accord avec les méthodes de la guérilla.
Alors là, par exemple, arrêtons-nous une seconde, si vous le voulez bien.
Bien sûr. Et ça, j'en fais une fiction parce que...
Voilà, alors vous publiez donc le premier conte, c'est ça, c'est l'histoire de l'assassinat de Mgr Romero.
Absolument.
Mais alors, vous apportez des éléments, on va pas... Moi, je vous dis... j'ai pas la réputation d'être quelqu'un de particulièrement prudent ou pusillanime.
Oui.
Mais moi, je raconterai pas à la radio ce que vous racontez dans votre texte.
Non, mais moi, je suis prêt non seulement à le raconter, mais je suis prêt à répondre à l'appel du cardinal Ratzinger, aujourd'hui souverain pontife, s'il le souhaite, pour témoigner, pour apporter cette preuve supplémentaire au procès de canonisation de Mgr Oscar Romero, cette preuve supplémentaire de son extraordinaire sainteté. Parce que, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Depuis le début des années 60, le clergé régulier et séculier en Amérique latine soutient la révolution. La soutient si ouvertement que le cardinal Ratzinger lui-même va prendre la tête d'une contre-offensive puissante qui partiellement va porter ses fruits. Et donc il n'est pas étonnant qu'un homme de gauche, comme Oscar Romero, archevêque de ce petit pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Salvador, donne les clés de la crypte, des cryptes et des sous-sols de la cathédrale aux gens qui sont persécutés par l'extrême droite. L'horrible extrême droite, les escadrons de la mort du major d'Aubuisson ne font pas trop de quartier aux terroristes et aux partisans de la dictature communiste en Amérique latine. Et donc, Oscar Romero donne la clé. Et puis un jour, il y retourne. C'est ça la véritable histoire. Il y retourne. Et il trouve des cadavres humains. Il trouve des gens qui ont été torturés. Il trouve les prisons du peuple. Et il n'est pas d'accord. Parce que tout homme de gauche qu'il soit, il n'a pas ouvert la cathédrale pour qu'on torture les hommes de droite. Il l'a ouvert pour offrir l'asile que l'Église offre toujours à des gens pas forcément respectables, mais dont elle estime qu'il n'y a pas de raison de les assassiner sans jugement, car il le risquait effectivement. Et c'est l'homme le plus important du pays. C'est ça qu'on a du mal à comprendre dans la mentalité française. L'archevêque, là-bas, c'est à 3000 pieds au-dessus du président de la République, et puis ça change pas comme le président de la République. Alors, la seule différence entre la gauche et la droite en Amérique latine, je veux dire la gauche révolutionnaire, la guérilla sanglante, et la droite un peu rude qui s'y oppose, c'est pas la religion, c'est l'heure à laquelle ils vont à la messe. Ça, c'est certain. Et donc, on attend tous les mercredis sur les ondes nationales. On attend le discours, c'est le jeudi, pardonnez-moi, on attend le discours de l'archevêque qui parle des choses politiques à juste titre. Jean-Paul II le lui a un peu reproché, il a dit vous allez trop loin, vous prenez des risques. Il en a pris d'énormes, il a prévenu qu'il composait sa prochaine homélie radiophonique, son prochain discours sur le thème du refus complet que l'Église oppose à l'assassinat politique. Nous étions mercredi, le jour même, à sa messe privée, il a été fauché, abattu, mais le mot n'est pas, est impropre s'agissant d'un archevêque, d'une balle qui lui est rentrée dans le dos, qui a explosé dans le cœur, et à l'élévation, il a versé son sang pour ce qu'il considérait être la justice et qu'il l'était en effet.
Mais alors, ce que...
C'est pas la version officielle, puisque tout le monde raconte que c'est mon ami, je n'hésite pas à dire, mon ami, le major d'Aubusson, qui l'a fait. Pourquoi le major d'Aubusson, qui était l'homme le mieux informé du pays, aurait-il fait assassiner celui qui allait devenir son principal allié dans la lutte anti-guérilla?
Alors ça, une des révélations, parce que cette révélation elle va très très loin, vous allez loin dans la désignation des coupables, et ça concerne directement le pouvoir français.
C'est
une des révélations de ce livre. Il y en a d'autres, il y en a qui sont absolument charmantes. Il y a une anecdote délicieuse qui raconte l'histoire de deux petits garçons qui suivent un chauffeur de maître qui vient glisser régulièrement de temps en temps sous la porte de la demeure familiale désertée par le père qui est en prison pour des raisons parfaitement honorables puisqu'il est en prison pour crime d'Algérie française et que sa famille se débat dans des difficultés épouvantables, et ces deux petits garçons de temps en temps trouvent sous la porte une enveloppe qui contient quelques billets et ils décident de suivre le bienfaiteur.
Tous les billets voulus pour ne pas mourir de faim.
Voilà, tous les billets voulus pour ne pas mourir de faim. Et ils suivent le bienfaiteur et ils finissent par arriver jusqu'à la demeure, non pas du bienfaiteur, mais qui est un chauffeur de maître, mais des maîtres de ce
vous
chauffeur.
Vous pouvez donner leur nom, parce que...
Et on donne, alors vous donnez le nom, il s'agit de Edmond Giscard d'Estaing,
voilà,
Edmond Giscard d'Estaing,
oui.
Qui glissait des billets pour aider une famille dont le soutien, une famille que vous connaissez très bien, Kérali, dont le soutien était en prison pour crime d'Algérie française.
Et d'ailleurs, ce livre rend hommage plusieurs fois, c'est peut-être le moment de le dire, on parle beaucoup du référendum, on parle beaucoup du rôle de Valéry Giscard d'Estaing dans cette affaire. Moi, je crois qu'il faut aussi se souvenir de ce qu'a été ce jeune homme extrêmement courageux, qui tous les soirs après le Conseil des ministres, à l'époque où il était simple secrétaire d'État aux finances du général de Gaulle, continuait de rêver avec les partisans de l'Algérie française d'une solution qui, sans être radicale, préserve nos intérêts politiques, et bien sûr aussi nos intérêts énergétiques et nos intérêts militaires, l'espace indispensable à l'utilisation de l'arme atomique en Afrique du Nord. Et Giscard, enfin le fils de ce couple admirable, Edmond Aimé Giscard d'Estaing, je l'ai dit, mais alors le Albin Michel m'a censuré les pages les plus intéressantes, alors là je me venge un peu, 10 ans après, fait partie des hommes qui ont proposé au général de Gaulle avec courage les 36 solutions acceptables. Bien entendu, comme vous le savez, de Gaulle a pris la 37e et nous en payons encore le prix. Près de 40 ans plus tard, par les très mauvais exemples que ça a donné au monde musulman, le fait d'avoir abandonné les harkis, enfin c'est un autre débat, on va pas y revenir. Mais c'est vrai que ce livre, j'ai pris la place, j'ai pris le temps de tout dire. Voilà, c'est mon testament spirituel intermédiaire.
C'est un très beau livre, vraiment.
Et je reviens. Voilà.
Je me félicite de l'avoir lu et de l'avoir découvert parce qu'il est plein d'anecdotes, il est plein de petites choses amusantes. Vous avez cité les proverbes voltaïques, il y en a d'autres.
J'aime bien
c'est le pied qui fait la famille, par exemple.
Oui.
Vous expliquez le sens de ce proverbe étrange, c'est le pied qui fait la famille. Bon. Alors, ça s'appelle La Clé du Songe, et vous serez dimanche 5 juin à la fête du livre de Radio Courtoisie pour le présenter. Et je ne peux qu'en recommander la lecture. Il est publié par les éditions de la Nef. Oui. Il vaut 27 euros. On en a dit ce soir, c'est pas le millième de son contenu. Vraiment pas le millième.
On le trouve sur www.librairiecatholique.com. C'est le moyen le plus simple, puisque l'ouvrage n'est pas en librairie, bien sûr. Nous sommes trop modestes à cet égard. Serge, je voudrais ajouter quelque chose. Moi, ce qui m'a frappé en préparant cet ouvrage après 15 ans de silence dans la vie d'un écrivain, c'est pas mal.
Oui.
Et ça permet quand même décanter un certain nombre d'emportements de jeunesse et de se simplifier, voilà, d'aller à l'essentiel. Alors, il y a 416 pages, mais ça représente pas le dixième de ce qui a été mon œuvre, enfin mon travail de grand reporter et mon œuvre de philosophe chrétien. Donc, moi, ce qui m'a le plus frappé en préparant ce livre, c'est à quel point notre famille d'esprit, celle dans laquelle vous êtes, Serge, celle qui est la famille des auditeurs de Radio Courtoisie, et derrière eux, une famille qui nous intéresse plus encore, celle des lecteurs de Radio Courtoisie, celle des gens qui ne se laissent pas assommer en permanence par les médias. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point, dans tous nos combats, Amnesty International, l'invention, au sens propre, de Solzhenitsyn en France, qui a été l'œuvre de la revue Itinéraire et modestement de notre serviteur, les premières traductions de l'archipel Goulag, le désastre que nous annonçait le sida en 87, là aussi je me suis fait bien agonir d'injures par tout le monde, à commencer par le ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac, parce que moi je disais que c'était une maladie mortelle, incurable, provoquée par l'état des mœurs. Et ce qui m'a le plus frappé, les principes de philosophie politique aussi, de philosophie sociale, la subsidiarité, les corps intermédiaires, c'est que finalement notre seul tort, c'est pour ça qu'il faut se taire parfois, 10, 15 ans s'il le faut, c'était d'avoir 10 ou 15 ans d'avance. Alors maintenant j'attends 10 ou 15 ans, à chaque fois qu'une idée me vient, en me disant, si je la sors dans 10 ou 15 ans,
elle sera dans le vent,
je serai à côté de Bernard-Henri Lévy.
Je ne suis pas tout à fait certain que vous ayez fait un bon calcul, parce que je ne suis pas convaincu que la clé du songe soit totalement dans le vent, vous voyez. Bon, je trouve que c'est un vrai bonheur de lecture, et c'est pas tellement dans le vent d'écrire comme ça.
Voilà. Non, en tout cas, c'est très soigné, c'est très relu.
Ah oui, en plus, alors le travail d'éditeur est magnifique.
J'ai pris 15
ans. Dire, voilà. Bravo.
Merci, Serge.
Vous pouvez me rappeler
la clé l'internet. Du songe, la non, clé non. du songe, Ukerali, www, ça serait bien de rappeler, c'est un excellent site qui est tout récent, donc il est mal connu, librairie catholique en un seul mot attaché, librairie au singulier, catholique au singulier attaché, .com. Ce site regroupe de façon simple pour tous les amis internautes tout ce qui paraît en matière d'écriture catholique. Alors ça n'est pas du tout un site politique, c'est un site plutôt spirituel, mais il y a de nombreux ouvrages d'histoire qui ont été commentés sur ces ondes. Il y a beaucoup de nos amis, et puis moi je trouve que comme ils sont jeunes, sympathiques et qu'ils font sur internet, j'ai envie de faire un bout de chemin avec eux. Donc j'ai pas mis mon livre en librairie, et d'ailleurs on est trop pauvre pour être en librairie, vous le savez, ou alors on se fait voler. Donc si on le veut, l'éditeur est une revue catholique qui n'est pas très organisée non plus pour répondre aux demandes. Donc si on le cherche, on tape Kerali sur librairiecatholique.com. On vous remercie.
Merci. À dimanche 5 juin.
Certainement. Est-ce que c'est bien vous qui avez écrit le livre sur les Christéros?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pas dans le.
Mais ça, j'avoue que c'est un souvenir inoubliable.
Oui. Alors ça aussi.
Je vous dis comme je pense.
Ça aussi, c'est
très
scoop.
Peu de livres là-dessus.
Oui, juste un mot. C'est un scoop extraordinaire.
C'est ce petit garçon de 13 ans, Viva et Christoros.
Voilà, qui avait beaucoup frappé le cardinal Ratzinger. D'ailleurs, je me félicite de ce que le cardinal Ratzinger, à l'époque où il n'était que, si j'ose dire, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ait fait traduire en anglais, en allemand et en espagnol la plupart de mes ouvrages sur la théologie de la libération, l'Amérique latine, l'arianisme. Ça prouve aussi, alors ça c'est un grand cri d'espérance, hein, je profite du micro, mais 15 ans de silence, ça autorise un tout petit débordement. Ça c'est formidable, parce que on savait pas du tout ce que ça voulait dire, hein, des glories olivées, c'est compliqué, on a bien compris, la Méditate Lunae, Jean-Paul Ier, bon ça va, des laborés solis, tout le monde a pu interpréter facilement l'œuvre solaire de Jean-Paul II, mais des glories olivées, on le saura peut-être dans très longtemps, mais ce qu'on sait tout de suite, c'est que ce pape-là, il va aller très loin, il va aller très vite, et surtout, alors ça c'est une chose qui ne m'est jamais arrivée et qui n'est jamais arrivée à aucun écrivain traditionnaliste, je crois, il a besoin de nous, il le dit. Et donc, oui, je crois qu'il ne faut pas lui refuser de l'aide qu'il est en train de nous demander vis-à-vis de l'intelligentsia.
Alors, docteur, vous avez dévoré votre plage horaire pour donner la parole à Hugues, je vous en remercie, mais vous avez, il vous reste deux minutes pour faire une annonce.
Parce que mon Dieu, j'avais tellement de choses à dire.
Il faudrait que vous reveniez après le...
Parce que je voulais parler un peu de la Constitution, nous avons un rôle, je dirais, très petit, naturellement, nous sommes tout petits par définition, mais ils sont absents, vous le savez, de la Constitution complètement, n'est-ce pas, on n'en parle pas. Et vous savez comme moi, dans la charte, article 262.1, toute personne a droit à la vie, nul, petit 2, nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Vous me direz, mais c'est une merveille, tout va bien. Le seul malheur, c'est qu'il n'est jamais cité. On ne parle ni d'avortement, ni de contraception, ni de stérilisation, tout ça. C'est le mensonge par homicide. C'est le mensonge par omission. Mais c'est le mensonge et l'homicide à la fois. C'est le mensonge et l'homicide. Je vous dire aussi encore une petite chose. Mais alors là, nous faisons campagne, nous avons fait des tracts, on a fait des affiches avec d'autres associations aussi. Enfin, nous aussi, vous me direz, mais c'est de la politique. Je dis, c'est la charité politique, n'est-ce pas, Pillon? C'est une chose très élevée. Il n'y a pas rien de plus élevé que la charité politique. Donc nous sommes politiques, c'est vrai, mais enfin, la charité par-dessus. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu la pensée de tous. Mais nous sommes quand même au-dessus des partis, nous ne sommes pas un parti. Oui, nous étions à Marseille pour la première fois, il n'y a pas tellement longtemps. Nous étions ravis, il y a 15 jours. Et alors un garçon qui était là, un opposant, mais assez calme, a dit ceci, j'écoutais tout à l'heure l'autre intervenant, il disait ceci, une chose incroyable. La vie, c'est l'IVG, l'IVG c'est la vie. Ouais, eh bien, nous sommes dans un monde, babélien, je ne sais pas comment le dire, de Babel, enfin, incroyable, incroyable. Et voilà, et ça, je dirais, alors que, la vérité est une nourriture, et je dirais là, le mensonge, on en est gavé, le malheureux. Il dit une chose et le contraire.
Docteur, le couperet du chronomètre s'est abattu sur nous.
Por gracias, venez le 28, mais ce sera la veille du référendum. Le 28 mai à 14h30, place de la Bourse, à côté du planning.
Entendu, on y sera. Merci docteur.
Merci.
Ne quittez pas l'écoute, je reprends la parole dans quelques minutes. Sans attendre, je reprends l'antenne parce que je vais piquer quelques minutes aux jeunes européens de l'émission de la vieille Europe avec l'autorisation exceptionnelle des responsables de cette moitié d'émission parce qu'ils ont tous peur que je fasse comme je faisais avec Daniel Amiche dans le temps, que je pique 20 minutes. Non, ça va aller très vite. C'est tout simplement parce que je voudrais faire deux ou trois petites annonces
et
donner la parole à Patrick Goffman qui nous a rejoint. Alors, il y a un débat sur un colloque sur la délocalisation, qui est organisé le 21 mai 2005 à partir de 14h à l'hôtel Concorde Lafayette, Porte-Maillot. C'est notre ami Thibault de la Tocnay qui organise ça, et je vous promets que vous ne vous y ennuierez pas. Je dois également vous informer d'une autre organisation qui est une journée spéciale, l'Europe sans Dieu, non merci, organisée par Benjamin Guillemin sur la subsidiarité, à propos de son livre sur la subsidiarité, Isabelle Moural pour son livre Une sagesse sur l'Europe, et Pierre Hillard pour son livre excellent, je dis excellent parce que celui-là je l'ai lu contrairement aux deux autres, La décomposition des nations européennes. Ça se passe samedi 21 mai 2005, je dis c'est un colloque, c'est pas du tout un colloque, c'est une signature de livre qui se passe à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Vous connaissez l'adresse et vous savez que c'est au métro Saint-Michel Notre-Dame. Le jeudi 26 mai, deux réunions. Une à Paris, 56 Ter, rue de la Chapelle. Le commandant Luciani vous invite à rejoindre Christian Pérez, Gilles Néréminet, Franck Timmermans et Nicolas Tandler pour une grande réunion publique. Pour la France, votons non. Et notre ami... Michel de Poncin vous invite à le rejoindre avec le comité Les Pentes le jeudi 26 mai à 19h à la salle des congrès Chaillot-Galliera, 28 avenue Georges V, Paris 8e, pour un meeting intitulé « Non à la Turquie dans l'Europe, non à l'islamisation de la France, non à la perte des libertés » auquel participera Romain Marie. Et enfin, vendredi 20 mai à 20h15, à la salle des catéchismes de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, Jean-Louis Dandré de Civitas, élu locaux, présentera une conférence intitulée « La Constitution européenne à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais la semaine suivante, et nous pourrons examiner les dégâts ou nous régaler des souvenirs du champagne que nous aurons bu. Patrick, ce numéro du Libre Journal mérite qu'on en parle ?
Oui, il le mérite d'autant plus. Bonsoir Serge de Beckett, je salue également mes camarades européens. Il le mérite d'autant plus que je le découvre avec émotion, puisque je vous ai fait faux bond pour la première fois depuis longtemps hier, puisque j'étais retenu par une urgence plus grande encore, et que vous l'avez bouclé tout seul, puisque votre autre esclave, là, le marquis d'Olmeta, était lui en train de faire une croisée en Italie du Nord, après l'Atlantique Sud, enfin, on le voit très rarement. Donc vous avez bouclé tout seul, et je vous rends cet hommage et ce devoir en public devant nos centaines de milliers d'auditeurs, que vous avez très bien travaillé. Vous me laissez entendre de temps en temps que je suis indispensable, parce que vous ne pouvez pas corriger, mais je trouve que vous corrigez vraiment très bien. Je le dis au lecteur maniaque qui hésiterait à se procurer le Libre Journal de crainte de faute.
C'est quand même apprendre cum grano salis.
Non, vraiment pas. C'est un journal qui est très bien mis en page et très bien corrigé par Serge de Beckett lui-même et tout seul. Alors que contient-il rapidement pour pas empiéter et pour pas marcher sur les pieds de mes camarades européens plus longtemps? Bien sûr, c'est notre dernier numéro avant le référendum. Alors nous adressons à ceux qui disent non, et vous savez, ceux que les ténors du oui, comme on le dit aujourd'hui dans le gratuit métro, traitent d'attardés, d'étroits, de frileux, de myopes, de repliés, ceux qui votent non et que Giscard traite de comique troupier, Alain Minc de vérole antidémocratique, dans leur chaumière claquemurée, comme dit Michel Maffesoli, tout cela et quelques autres pourraient lire avec intérêt François Brignot, à qui nous avons carrément donné 4 pages pour la suite et la fin de son feuilleton préélectoral. L'abbé Guy Marie a lu la Constitution européenne. C'est un effort considérable qu'il a fait pour donner un point de vue catholique sur cette Constitution. Je vous laisse le découvrir. Et puis, nous expliquons, avec l'aide de notre confrère algérien El Ouattan, comment et pourquoi Monsieur Delanoë veut que nous payions le ramassage des ordures à Alger, ainsi que son tramway. Et puis, rien que la page 20, nous alignons les signatures, la page livre, nous alignons sur cette seule page les signatures de Peyroncé-Lugoz, ADG et Olmeta. Bon, je pense que ça pourra faire l'affaire pour les plus difficiles. Je ne mentionne pas les 3 reportages à l'autre bout du monde. Je mentionne seulement, pour finir, donc notre adresse électronique. francecourtoise.com, l'adresse à laquelle on peut commander un spécimen pour 5 euros ou un carnet de timbres, s'abonner pour un an, c'est 110 euros à SDB 4 Place France List, 75010 Paris, et c'est la même adresse, mais je vais la répéter parce que ça en vaut la peine. Vous faites paraître, Serge, et j'avertis les auditeurs que c'est un tout petit tirage pour le moment, et qu'il faudra peut-être qu'ils attendent plusieurs mois après en se mordant les doigts. Vous faites paraître le dictionnaire de la colère, les meilleurs coups de gueule du Libre Journal. Rien que la couverture vaut les 25 malheureux euros. Moi, je vous dis devant tout le monde encore qu'on va en faire une affiche, même si vous n'êtes pas encore en courant, parce que vraiment, elle déménage, mes camarades européens se tiennent le nez pour ne pas rire trop fort dans les micros.
Comment ça, c'est ma photo.
Non, elle est drôle. Elle est vraiment drôle. Non. Elle est drôle et elle est belle. Donc, ce livre, Le dictionnaire de la colère de Serge de Beckett, il vaut 25 euros pour 400 pages. Chèque à l'ordre de Beckett, 4 Place France List, 75010, Paris.
Merci. À la semaine, dans 15 jours, que Dieu nous garde.
Bien, bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie avec les animateurs habituels de ce rendez-vous, Xavier Van Lierde, journaliste, rédacteur en chef de la revue Relève Politique, Grégoire Gambier et Patrick Péel, journaliste également, et votre serviteur Philippe Christel. Nous, une émission avec un format classique mais inversé dans sa répartition, puisqu'on fera une première demi-heure un petit peu écourtée désormais sur un certain nombre de brèves que nous avons relevées dans l'actualité géopolitique et culturelle européenne, pour consacrer l'heure entière qui suit à nos invités que nous vous présenterons tout à l'heure lorsqu'ils seront arrivés, avec une thématique qui sera largement européenne, vous le verrez dans les dernières lignes droites avant le choix que nous devons faire le 29 mai. Voilà, alors très rapidement peut-être consacrer les 20 minutes, les 15-20 minutes qui nous restent avant l'arrivée de notre invité à un certain nombre de brèves que nous avons repérées et répertoriées ici ou là. Xavier, Grégoire ou Patrick, qui veut tirer le premier? Grégoire?
Oui, on va mordre un petit peu sur les thèmes que nous aborderons avec Aymeric Chopard d'ici peu, mais simplement pour signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie un intéressant article publié dans l'International Herald Tribune du 18 avril 2005, et je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie lisent l'anglais sans problème. Tout simplement, cet article est consacré au projet Galileo, et pas simplement au projet Galileo, donc projet européen concurrent du GPS, donc de navigation par un satellite. Cet article est une illustration parfaite de la sémantique et de la dialectique américaine, puisque l'International Herald Tribune accuse ni plus ni moins l'Europe que de favoriser l'émergence de la Chine, enfin de la puissance stratégique de la Chine. Et voilà comment les Américains accusent encore une fois l'Europe d'être atteinte du syndrome Munich, quoi, en collaborant avec la Chine au détriment bien sûr de nos valeureux camarades américains. Donc voilà, pour ceux qu'intéressent ce qui se disent et se pensent outre-Atlantique, et encore une fois je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie y sont sensibles, eh bien je signale cet article paru dans le 18 avril 2005 consacré à Galileo.
Merci Xavier Van Lierde, vous avez un sujet? Ou Patrick Béel?
Non, moi j'ai des sujets aussi. Hein.
Écoutez, oui, il y a une multitude de sujets. Simplement signaler pour les amateurs le partenariat noué par le CNRS avec un institut américain, le département de l'énergie des États-Unis, un partenariat de mise en commun de l'intelligence française, donc avec nos partenaires d'outre-Atlantique, un partenariat qui démontre à l'envi la façon dont il était parfaitement grotesque de voir les chercheurs français manifester voici 2 ans pour le maintien de l'exception culturelle française, pour la survie de la recherche française et de l'intelligence, et les voici sitôt le combat mené et gagné, se précipite dans les jupons de l'oncle Sam pour récupérer financement et programmes de recherche conjoints, des programmes qui portent sur des sujets on ne peut plus stratégiques comme les énergies du futur. Voilà qui démontre ô combien les discours sont différents des faits quand il s'agit de ce type de personnes.
Alors, on vient de mentionner une parution dans le Herald Tribune. Mais écoutez, de mon côté, je vais faire état d'une parution dans le Moskovskie Novosti.
C'est
de bonne guerre. Et les auditeurs de la Courtoisie sont aussi sensibles à ce qui se passe à l'Est. Bon, plus sérieusement, c'est intéressant parce que depuis ce renouveau qui est ce renouveau politique, ce renouveau de puissance qui s'organise en Russie avec l'arrivée et la stabilisation de Vladimir Poutine au pouvoir, un certain nombre d'inquiétudes restent latentes sur la capacité de la Russie à se stabiliser, puisque la constitution russe prévoit que mécaniquement, dans l'état actuel des choses, Vladimir Poutine devra quitter le pouvoir en 2008, qui est le terme de son second mandat, la constitution russe prévoyant les mêmes dispositions en termes de mandat présidentiel que la constitution américaine. Et donc, simplement, les choses qui ont changé, c'est que la Russie comprend bien qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus attaqué sur ses frontières extérieures par les Bushmen qui sont en train de prendre le pouvoir, qui en Ukraine, qui en Géorgie, qui demain au Kyrgyzstan ou peut-être en Ouzbékistan. Et donc pour la première fois, l'intelligentsia russe commence à spéculer sur différents scénarios de reconduite au pouvoir de Vladimir Poutine au-delà de 2008. Alors pas effectivement dans le cas de figure constitutionnel actuel, puisque la constitution ne le permet pas, mais les deux scénarios qui sont qui sont le plus en vogue ne sont pas inintéressants. Le premier est assez classique, c'est il est effectivement sur la table de travail du Parlement russe de toiletter la constitution pour renforcer le rôle des partis politiques dans la direction du pays et transformer davantage la Russie en république parlementaire, alors en partant du système davantage présidentiel qui est aujourd'hui. L'idée étant de faire en sorte que le chef de gouvernement soit demain celui qui soit le patron du parti politique qui a gagné les élections, comme ça se fait dans un certain nombre de démocraties. Et donc c'est un tour de passe-passe qui permettrait à l'automne 2007 par exemple à Poutine de démissionner avant son terme, de devenir le leader du grand parti de droite qui est en train de se construire et de remporter, comme c'est probable, les élections législatives de 2008 et donc d'accéder ainsi au pouvoir. Le deuxième scénario est beaucoup plus intéressant puisqu'il prend acte des volontés américaines notamment de déstabiliser le contour proche de la Russie. Le dernier bastion c'est la Biélorussie et les dernières déclarations de Condoleezza Rice et de George Bush ont bien montré que ce pays était l'objet de tous les efforts, de tous les financements américains. Eh bien, le président biélorusse Loukachenko, qui n'est pas un enfant de cœur, ne souhaite pas présenter les mêmes faiblesses que les prédécesseurs. Et le projet qui germe, c'est un processus d'unification de la Biélorussie à la Russie, qui serait le seul moyen d'arrimer de manière définitive la Biélorussie, qui n'a jamais connu une indépendance flagrante au cours de l'histoire, à son grand voisin russe. Et ce que ça voudrait dire, c'est qu'on pourrait imaginer qu'au printemps 2007, Moscou et Minsk iraient organiser des référendums sur l'unification, et dès lors, c'est un État nouveau qui existerait, qui permettrait de remettre à zéro les compteurs de l'élection présidentielle, et au cours d'une élection présidentielle commune de décembre 2007, par exemple, il est évident que Vladimir Poutine serait élu à la majorité écrasante des voix. Ce qui est intéressant, c'est que ce média, qui est un média totalement indépendant sur la scène politique russe, rappelle que la mise en œuvre de l'un de ces deux scénarios ne peut être empêchée que par la déstabilisation du système politique ou économique, une révolution ou un coup d'État, c'est-à-dire que ceux qui voudraient rééditer les prouesses de la révolution orange sont avisés de ce que les dirigeants russes et biélorusses ne se laisseront pas faire et ne succomberont pas au charme du marketing politique américain, et c'est effectivement tout le mal que nous leur souhaitons. C'est en tout cas une option intéressante pour la stabilité politique à la grande frontière de l'Europe, stabilité dont nous avons besoin pour construire une vraie Europe puissante, pas forcément celle du référendum, mais en tout cas celle de la grande coopération entre Paris, Berlin et Moscou. Grégoire Gambier.
Oui, bah après l'Europe puissance, l'Europe impuissante, puisque vous savez que l'atmosphère se crispe encore aux Pays-Bas, puisque vous avez peut-être entendu parler de l'agression dont a été victime Chris Crane, un journaliste américain, rédacteur en chef de publications homosexuelles à New York et à Washington, et qui a été, qui a été violemment agressé dans les rues d'Amsterdam le 29 avril dernier, lors des fêtes célébrant la monarchie. Il a été frappé par un groupe de 7 jeunes marocains et il en a déduit que le néerlandais se préparait à une guerre des cultures, je cite, opposant selon lui la civilisation occidentale à l'islam. Alors c'est bien sûr une nouvelle polémique sur le modèle néerlandais et la politique de multiculturalisme qui était prônée et affichée dans ce pays. C'est pour la petite histoire, donc les communautés homosexuelles, enfin les associations homosexuelles hollandaises ont donc appelé au sursaut, à la mobilisation. On a entendu dire que désormais la Bavière catholique était devenue plus accueillante que les Pays-Bas. C'est dire, ou alors c'est un effet Benoît XVI, allez savoir. Toujours est-il que cette nouvelle polémique, donc après vous vous souvenez l'assassinat du cinéaste Théo Van Gogh qui critiquait donc l'islam, cette nouvelle polémique qui en fait met en exergue les agressions visiblement croissantes que subissent les homosexuels aux Pays-Bas de la part de jeunes musulmans illustre peut-être deux choses. C'est d'une part que l'homosexualité, si elle a toujours été tolérée sans ostentation bien sûr en Europe, ne l'est plus tout simplement parce qu'une partie de la population qui est présente en Europe n'est plus européenne. Voilà, c'est à méditer et c'est aussi un sujet géopolitique.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'un effet Benoît XVI. Il y a en tout cas visiblement un effet Benoît XVI qui commence à se mettre en place au Vatican. On avait, dans cette dernière émission, on s'était félicité de l'élection de Benoît XVI comme étant une figure emblématique de ce qui est et de ce qui dure dans la vieille Europe. Les choses intéressantes, alors c'est moins géopolitique, mais ça y participe, c'est la fermeté que le pape a réaffirmée s'agissant de la dérive des mœurs dans cet Occident pourrigaté. Et le deuxième sujet, c'est
Philippe Christel, reprenez-vous, on dit un sermon.
Le deuxième sujet, c'est s'agissant de la diplomatie vaticane, puisque Benoît XVI a fait le choix d'adresser un certain nombre de signaux positifs à Pékin et Moscou. Vous savez que Pékin et Moscou sont les deux capitales qui ont été les parents pauvres du pontificat précédent de Jean-Paul II. Pour un certain nombre de raisons, Jean-Paul II n'ayant pu mener à son terme les réconciliations ou les contacts qu'il voulait, eh bien Benoît XVI semble, ce qui était un peu un témoignage de son élection, hein, semble vouloir renouer avec ces pays importants pour les catholiques chinois en ce qui concerne donc la Chine et puis pour l'impressionnante et l'importante force qu'est l'Église orthodoxe du côté des Russes. Donc Benoît XVI, de son côté, a fait les gestes nécessaires pour orienter son pontificat dans cette direction-là plutôt que dans tout autre. Xavier Van Lierde.
Oui, à propos de la Russie et des scénarios dont vous parliez tout à l'heure, avant que Grégoire Gambier réoriente le débat sur Amsterdam et les frictions communautaires dont cette ville est le théâtre désormais, je voulais signaler, toujours dans ce vaste mouvement russe de prise de conscience des nouveaux enjeux géopolitiques, la naissance d'un mouvement de jeunesse, peut-être un petit peu rapidement décrit par le monde de Paris comme les jeunesses poutiniennes, mais qui a affiché, dont le baptême a été la publication d'un manifeste, géopolitique, et dans lequel étaient affirmées des choses telles que celles-ci, je les cite, la Russie est le centre historique et géographique du monde contemporain, l'espace central militaro-stratégique du continent eurasien. Contrôler cet espace signifie dominer le monde entier, et c'est ce que visent les États-Unis d'un côté et le terrorisme international de l'autre. Seuls nous devons être maîtres sur notre terre et dicter les règles, ajoutait donc le manifeste de ce nouveau mouvement de jeunesse intitulé Nashi. La traduction de Nashi, ça signifie les nôtres en russe.
Joli nom.
Un beau nom, un joli manifeste, et qui nous fournira d'ailleurs une transition avec notre invité de ce soir, Aymeric Choprade, qui vient d'arriver, puisque là on est dans le cœur du sujet. Et effectivement, je pense qu'en ce qui concerne la Russie, désormais maintenant, la seule question qu'il faut se poser, qu'il faudra se poser, est de savoir quelle place occupe la Russie dans l'échiquier géopolitique mondial, et qu'il faudra notamment se poser cette question lorsqu'on voit un certain nombre de médias qui furent jadis très complaisants avec l'URSS, découvrir maintenant que l'URSS n'existe plus, que décidément la Russie est très gênante et qu'elle ne méritait pas sa place dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Alors, Xavier Van Lierde, merci. On va donc ouvrir notre séquence invité, puisque nos deux invités sont arrivés. Deux courts messages d'auditeurs. Le premier, sur Galiléo, lors d'une réunion récente de tous les partenaires, les Anglais ont imposé une clause n'obligeant pas l'unanimité des États membres pour l'utilisation de Galiléo à des fins militaires. Nous le savons bien ici, puisque nous nous en étions fait l'écho dans une précédente émission, mais cet auditeur ou cette auditrice a bien raison de le rappeler. Et puis, on n'est jamais aussi bien servi que par ce genre de message. J'approuve l'équipe des jeunes de la vieille Europe dans leur grande lucidité vis-à-vis des USA. Voilà. Donc, merci pour ce message.
Les États-Unis, si on veut être très précis. Sinon
voilà,
c'est
mais
déjà...
le texte stipule les USA, oui. Et vous connaissez ma grande rigueur textuelle,
oui.
Grégoire Gambier.
J'ai pas entendu les guillemets se fermer derrière, mais c'est...
Il n'y a pas de guillemets. Voilà. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour notre première demi-heure, qui était un petit peu rapide. J'espère que les auditeurs ne nous en auront pas voulu. Et puis, nous allons donc ouvrir cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe autour de nos invités.
chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Ce sont les chroniques de la vieille Europe avec vos animateurs habituels, Philippe Christel, Patrick PL et Xavier Van Lierde. Nous et Grégoire Gambier, donc au micro. Nous recevons pour donc cette deuxième demi-heure plus importante que prévu compte tenu du sujet et de l'invité, Aymeric Choprade. Bonsoir,
bonsoir.
Choprade. Et qui sera accompagné, en tout cas comme un petit peu en intervenant critique, par Olivier Lebrun, que nous avons reçu le mois dernier, qui est journaliste de défense. Évidemment, le thème principal de cette partie sera consacré, actualité oblige, à l'Europe et à la géopolitique de l'Europe, mais j'espère que nous aurons l'occasion d'aborder beaucoup d'autres sujets. La première question, Aymeric Choprade, que j'ai envie de vous poser, vous êtes un peu le héros, l'un des héros de la nouvelle école géopolitique française. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique, directeur de l'excellente revue française de géopolitique et directeur de collection à Ellipse. Nous en parlerons peut-être en fin d'émission. Comment se caractérise cette nouvelle école que l'on voit en gestation? Peut-être comment elle se distingue par rapport aux grands anciens que sont les Ratzel, Haushofer, Mackinder, Mahan, et comment elle se définit par rapport aux géopolitologues peut-être plus installés comme Lacoste, Sual et les autres.
Alors tout d'abord, héros, vous me faites très plaisir, mais enfin, je suis pas encore tombé au champ d'honneur. Donc,
non, mais c'est un héros
AUT.
AUT, oui, tout à fait. Oui, mais bon, peut-être demain, le deuxième terme s'imposera, allez savoir. L'Europe est riche de beaucoup de possibles.
Alors sur la question de l'école française de géopolitique, d'abord, école, là aussi, faut-il définir ce qu'on entend par école. Disons qu'il y a aujourd'hui, disons-le, une nouvelle génération de géopoliticiens ou de géopolitologues, on va pas se battre sur les mots, les deux sont employés, qui souhaitent revenir à une approche plus réaliste des relations internationales, plus réaliste, revenir sur repenser la question des intérêts de puissance qui ont été évacués pendant très longtemps dans l'analyse des relations internationales, parce que lorsque j'étais étudiant, les relations internationales en fait étaient concentrées essentiellement sur une lecture à la fois événementielle, chronologique et en même temps idéologique. C'était une opposition de blocs idéologiques. On opposait le communisme au libéralisme ou au bloc capitaliste. Et on oubliait souvent la spécificité des intérêts étatiques, des intérêts de nation, des constantes de la géographie et de l'histoire. Alors, en fait, la géopolitique en France est revenue, c'est vrai, dans les années 70 par Yves Lacoste, par la gauche. Elle est revenue par la gauche. C'est la gauche qui s'est un peu étonnée du fait que à l'intérieur même du bloc rouge, du bloc communiste, en fait, des oppositions faisaient jour.
Des contradictions.
Des contradictions. Et donc en 78, entre Chinois, Vietnamiens, un certain nombre de contradictions entre communistes qui ravivaient en fait des rivalités classiques, hein, l'opposition impériale entre la projection de puissance chinoise et puis la volonté du peuple viet de résister à cet impérialisme chinois et à être un peu le maître de la péninsule indochinoise. Cette constante de l'histoire est entrée en contradiction en fait avec les rivalités idéologiques. Alors voilà un peu comment le mot géopolitique est revenu en France après avoir été évincé, marqué du sceau de l'infamie par des noms pourtant aussi prestigieux et de très grande qualité qu'il faut aujourd'hui honorer et qu'il faut aujourd'hui redécouvrir comme Ratzel et Haushofer, qui sont des noms de la géopolitique allemande, qui sont bien sûr conformes à des intérêts pan-germaniques.
Des schémas intellectuels aussi qui étaient quand même assez hérités du 19e, enfin du début du 20e.
C'est ça, avec
ultra-déterminisme.
C'est ça, un ultra-déterminisme, une transposition des schémas de la cellule. Le Lebensraum, hein, l'espace vital, c'était un peu la transposition de l'analyse biologique. Enfin, le fait de considérer un corps vivant et un état en tant que structure politique comme un corps vivant. Donc évidemment tout ça était un peu trop marqué dans le déterminisme, mais on est allé trop loin en fait dans la négation de ces déterminismes aussi de l'histoire et de la géographie d'une certaine manière, et il fallait bien à un moment donné revenir de manière réaliste sur ces pesanteurs de l'histoire, sur ces constantes qui ne lassent pas nous étonner chaque jour tant ils contredisent les idéologies ambiantes.
Justement, parlons d'histoire et d'idéologie. Le débat actuel du moment qui nous agite, même quand on veut s'en détacher, c'est bien évidemment le référendum européen du 29 mai. Alors, donc, peut-être avec une grille de lecture géopolitique, que penser du traité constitutionnel? Parce qu'on a bien l'impression quand même qu'il, selon en tout cas ses défenseurs, il tend vers l'affirmation d'un espace géopolitique autonome, à défaut d'être indépendant. Et la plupart de ces opposants, en tout cas à droite, puisqu'à gauche c'est encore le discours internationaliste qui prédomine, ces opposants à droite critiquent au contraire ce constructivisme qui a montré ses limites et ses échecs. Peut-être qu'il y a une analyse plus profonde à apporter de ce phénomène.
C'est-à-dire que je crois que le texte de la Constitution en fait est dans la ligne, je dirais dans la ligne logique d'un processus de construction européenne qui malheureusement ne mènera pas à l'Europe puissance. Mais en soi, le texte de la Constitution ne me paraît pas pire que les traités précédents. Il est dans la ligne logique de ce qui a été engagé. Simplement, le problème et la question qu'il faut se poser, c'est va-t-on vers une Europe puissance? Est-on en train de construire un bloc de puissance, disons-le, utilisons le mot. Bloc, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance, les temps ont quand même changé sur un certain nombre de points. Mais moi, je crois qu'on vit, en fait, depuis 1990, plutôt un élargissement de la mondialisation, une continuité de la mondialisation à dominante américaine, malheureusement, et que cette construction européenne s'inscrit, en fait, cette construction-là s'inscrit dans le droit fil de cet élargissement d'une mondialisation à dominante américaine, et c'est bien le problème. Élargissement dans ses frontières, je rappellerai la volonté qui a été celle des États-Unis d'élargir les frontières de l'Europe à ce qu'on appelle la Nouvelle Europe aujourd'hui, dans un cadre d'élargissement de l'OTAN, de rapprochement, de projection des frontières du bloc euro-atlantique en direction des frontières de la Russie et de la Chine parallèlement. Donc on est au fond dans la solidification, dans l'amplification d'un processus de construction transatlantique au plan stratégique comme au plan capitalistique. Plutôt que dans l'édification d'une Europe puissance. Enfin, c'est ce que je vois, moi, depuis 1990. Et je dirais que malheureusement, donc, ce processus qui est engagé, cette architecture macro-régionale, hein, cette grande région qui est en train quand même de s'édifier, mais ne s'édifie pas au profit de l'identité européenne, des intérêts de puissance européens, économiques, et au profit d'une réelle indépendance politique de l'Europe. C'est bien le problème. Le problème est le fond du débat. Et je dirais qu'il faut donc dépasser la question de la Constitution, mais le référendum sur la Constitution est important parce qu'à un moment donné, il y a moyen, le moment est venu effectivement de dire stop à un processus donné pour remettre les cartes sur table et pour construire autre chose.
Oui, justement, parce que on a l'impression, on est, je pense, à peu près tous d'accord autour de cette table sur la critique de la construction européenne, bien sûr. Mais ceci dit, est-ce que elle ne s'inscrit pas aussi même de façon très négative dans cette lignée, mais est-ce qu'elle n'ouvre pas non plus des possibilités d'être débordée ou d'être utilisée à d'autres fins que ce qu'elle affirme effectivement dans son texte, hein, notamment vis-à-vis de l'OTAN ou de l'économie sociale de marché, toutes ces petites fins ceci, parce qu'on sent bien quand même à l'échelle du monde qu'il y a l'affirmation de blocs, enfin en tout cas de sphères régionales, de puissances régionales, est une réalité qui touche l'ensemble quasiment des sphères dans le monde et qui du coup ne toucherait pas l'Europe, au risque donc d'être continuellement vassale des États-Unis, même si on sait bien de la construction actuelle la vassalise.
Non, alors il faut effectivement se concentrer sur la question des blocs macro-régionaux. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de coopérations de grandes régions qui s'édifient, que ce soit le Mercosur, l'ASEAN en Asie du Sud-Est. Simplement, aujourd'hui dans le monde, le seul processus dit macro-régional, hein, pardon d'employer ce mot qui est pas très beau, un peu jargonnant, mais bon, de grandes régions hein, continentales, c'est le seul processus qui cherche à dépasser, voire annihiler la souveraineté des États. Si vous prenez l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ça reste une association d'États souverains qui font du libre-échange. Aujourd'hui, dans cette zone asiatique, le libre-échange augmente et les liens même économiques avec la Chine augmentent. Si vous prenez les différents efforts macro-régionaux qui sont engagés dans le monde, ils sont pratiquement tous sur une logique de maintien des souverainetés étatiques, si ce n'est tous, à l'exception de l'Union européenne. Alors, on pourrait imaginer sur un mode impérial, donc carolingien, une sorte de puissance européenne, d'empire européen, de reconstitution de cette idée impériale. Le problème, c'est qu'il aurait fallu sans doute rester sur une zone beaucoup plus restreinte.
Le noyau originel.
Le noyau originel, le noyau franco-allemand. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que cette construction européenne-là qui est engagée va détruire les souverainetés, ne va pas défendre l'identité européenne et les valeurs européennes, et elle ne va pas non plus construire un noyau d'empire. En fait, elle va, à mon sens, additionner les potentiels économiques des Européens au moteur de puissance américain. Donc c'est un projet qui ne sert ni l'Europe carolingienne, hein, l'Europe puissance fédérale en quelque sorte, ni l'Europe des souverainetés étatiques avec des complémentarités, etc. Ce qui, à mon avis, donne au fond deux bonnes raisons de rejeter un processus qui en rien ne conduit à une idée européenne.
Alors, une question de la part d'Olivier Lebrun.
Oui, effectivement, pour rester sur le sujet de la Constitution européenne et d'un débat qui, effectivement, passionne l'ensemble des Français, de nombreuses personnes autour de nous, autour de, j'en suis sûr, des auditeurs de Radio Courtoisie, on a remarqué dans les semaines passées, certaines personnes qui étaient convaincues de leur non à la Constitution, pour de bonnes raisons, souvent des questions liées à l'identité, des questions liées à la souveraineté, revenir sur leur décision réflexe ou instinctive pour choisir un oui dans une logique de poids et de densité à donner à une Europe dans une arène géopolitique. Aujourd'hui, seuls les poids lourds peuvent avoir une quelconque marge de manœuvre. Est-ce que ce renversement, ce réflexe est fondé en raison, d'après vous, ou est-ce qu'il repose sur une mauvaise analyse?
Notamment la mise en exergue de l'affaire du textile chinois, qui est le
par exemple,
prétexte,
oui,
pour dire, voilà, il est donc nécessaire le moindre mal, c'est une Europe unie pour faire pièce à la Chine. C'est d'ailleurs ce que nous demande un auditeur qui nous dit: en matière commerciale, l'Europe unie pourra-t-elle s'opposer aux injonctions de l'OMC?
Tout à fait, nous survivrons si nous grossissons.
Alors, bon, ça c'est une très très vieille idée. Déjà, les premiers géopoliticiens allemands avaient insisté sur l'espace, les masses démographiques, etc. Alors, si on prend le facteur démographique, moi je veux bien qu'on me dise 455 millions d'habitants, c'est vrai que c'est un potentiel démographique important, mais en même temps, il faut voir les choses au plan cinématographique, au plan dynamique, pas au plan statique. Aujourd'hui, l'Europe qu'on considère comme masse démographique est une Europe vieillissante, déclinante. Et on ne voit pas, et là on aurait besoin pour le coup d'une forme de plan Marshall, mais à vocation européenne, de la natalité et de la démographie européenne. Il n'y a aucune pensée sur la démographie européenne à l'intérieur même de ce processus de construction européenne. C'est une question effectivement d'intérêt européen, pas uniquement franco-française, que la démographie, mais elle n'est absolument pas prise en compte. Et je dirais que même elle l'est, mais avec une réponse, chacun le sait, qui est une réponse immigrationniste et qui est une réponse qui vise à faire rentrer la Turquie et qui apporterait une forme de natalité de substitution à nos déficits. Donc, sur le plan démographique, ce processus de construction européenne ne pense pas la puissance. Ensuite, il faut quand même relativiser la question De la masse. J'observerai quand même qu'il y a 200 États dans le monde et que la France, certes, n'est plus la première puissance européenne qu'elle a été, mais que si on la range dans les catégories de, si on la range sur une échelle de la puissance, elle n'est pas centième, elle n'est pas au milieu. Elle reste une puissance importante. Elle a beaucoup de problèmes, chacun le sait. Elle a beaucoup de problèmes de réformes à faire. Elle a beaucoup de difficultés à réformer son État et ses moteurs de puissance. Mais elle reste une puissance capable de peser au plan international. Elle l'a tout de même montré sur l'affaire irakienne. Elle a pu s'opposer seule. Et j'observerai que la France, la voix de la France était majoritaire dans le monde. Elle était malheureusement minoritaire en Europe. Il y avait 18 pays sur 25 qui suivaient les États-Unis. Donc je crois qu'il faut quand même raison garder sur cette question de la puissance. Bien sûr, il faut des synergies européennes. Bien sûr, il faut construire un bien commun européen. Mais en même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter la France. La France reste une puissance très importante. Elle doit continuer à penser son avenir à partir d'elle-même, en rebondissant en quelque sorte, en ajoutant par la question européenne, mais continuer à penser son avenir à partir d'elle-même. Et la France a quand même, il y a une continuité de l'histoire, autant de rivages, de kilomètres de rivages que de frontières continentales, la France, elle est pas seulement européenne, elle est aussi ultramarine, elle a aussi une projection mondiale depuis toujours, et il ne faut pas négliger cette dimension, même si, j'en conviens, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur l'outre mer français, il y a beaucoup de choses à dire sur la francophonie qui est souvent malheureusement une danseuse et pas un réel potentiel de puissance. Mais quand même, il y a cette continuité et ce potentiel.
Oui, même s'il a toujours échoué historiquement aussi à s'affirmer vraiment outre-mer face à ses concurrents, les différents
Plus empires, par refus de choix que oui, dans le long terme que de volonté de s'affirmer. Quand elle a voulu, elle a réussi.
Le résultat, ce sont des faits.
Mais elle a connu des échecs impériaux aussi, l'épopée napoléonienne.
Oui, continentaux, oui,
et belle et romantique, mais elle débouche sur un déclin de puissance.
Patrick PL, bien oui, dans le micro.
Par rapport à cette Europe que vous décrivez, il y a depuis la guerre en Irak, il y a cet axe, Paris-Berlin-Moscou qui est apparu. À votre avis, est-ce que c'est une alternative? Est-ce que c'est une alternative par rapport à cette Europe que nous propose Bruxelles, ou est-ce que c'est un épiphénomène qui est arrivé vu les circonstances de l'Irak, où vraiment il peut avoir sur le plan géopolitique un axe? Alors on parle de Madrid. Qui aurait rejoint cet axe, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ce niveau-là sur le plan géopolitique?
Paris, Berlin, Moscou, j'y crois beaucoup, mais j'observerai que c'est d'abord une logique de trois souverainetés qui se sont affirmées. Trois souverainetés. Souveraineté française, sa vision mondiale, qui ne coïncidait pas avec la vision américaine, souveraineté allemande, reconstruction de l'Allemagne au plan européen, et la géopolitique allemande de l'Europe commandait que cette fois-ci l'Allemagne ne s'aligne pas sur les États-Unis, et logique de souveraineté russe, assez symétrique à celle de la France, volonté de rester une puissance mondiale, d'apporter de l'équilibre, monde multipolaire et ça. C'est cette convergence de trois dynamiques de souveraineté étatique qui permettent effectivement de penser une forme d'axe impérial. Alors, on n'a pas la capitale d'empire non plus. Il faut pas oublier, il y a Paris, il y a Berlin, il y a Moscou, et il y a quand même des intérêts aussi qui peuvent être différents sur un certain nombre de théâtres géographiques. Mais je crois qu'en tout cas à l'avenir, il y a certainement beaucoup de choses à faire ensemble. La France, d'abord au plan économique, comme au plan de la stabilité européenne, les Français et les Allemands ont vraiment des intérêts communs et doivent accroître leur synergie industrielle, penser ensemble une vraie stratégie capitalistique. Car l'un des grands défauts de l'Europe puissance aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de moteur financier, et que les principaux moteurs financiers, c'est l'Angleterre et ça reste le capital transatlantique. Et puis renforcer les relations évidemment avec entre la France et la Russie. J'observe que l'Allemagne et la Russie renforcent plus leurs relations que ne le font la France et la Russie. Et de ce point de vue, il faudrait que nos dirigeants se dégagent du droit de l'hommisme qui les corsette.
Oui, et au-delà du droit de l'homme, c'est la timidité récurrente de l'entrepreneur français, puisque les liens russo-allemands sont davantage économiques que politiques, et on peut penser que les pouvoirs publics français ont été quand même, depuis Jacques Chirac, depuis 2-3 ans, relativement timorés dans leur condamnation des violations aux droits de l'homme de la Russie. Il y a quand même une veilleuse de mise, mais c'est pas pour ça que les industriels ont été plus audacieux. Xavier Van Lierde et après Grégoire Gambier.
L'un des faits, Aymeric Chopra, qui semble hypothéquer la mise en place de cet axe de puissance Paris-Berlin-Moscou, c'est l'attitude précisément des nouveaux adhérents à l'Union européenne, à tous ces pays d'Europe centrale qui conservent ancrés au fond de leur âme et de leur cœur la crainte du géant russe. Est-ce que vous pensez que cette crainte qui les pousse dans les bras des États-Unis, bien entendu, pour chercher une garantie, est conjoncturelle? C'est ce que pense par exemple Pascal Boniface, ou qu'elle est faite pour durer.
Non, je crois que, alors, d'abord, si on regarde la position des élites politiques et économiques des nouveaux pays, des nouveaux entrants, donc d'Europe centrale et d'Europe orientale, et j'en faisais l'observation encore récemment avec un ami hongrois qui m'en parlait et qui a un centre de géopolitique à Budapest, et qui me disait, c'est très frappant de voir que les élites qui étaient les plus pro-communistes, qui avait besoin de cette idée de maître et de vassal et qui s'inscrivait dans cette dynamique d'aliénation, sont aujourd'hui les plus pro-américaines. Donc c'est un problème de vassalité des élites, mais vous avez de plus en plus de gens qui, dans ces pays, veulent revenir sur une ligne plus nationale, plus européenne et moins atlantiste. Donc, je suis pas si pessimiste que ça sur l'orientation future de ces pays par rapport aux États-Unis. D'autant plus que j'entends quand même des voix de là-bas qui disent « Regardez ce que font les Américains, c'est du, comme ils disent entre guillemets, pardon pour l'anglicisme, du one shot, c'est-à-dire qu'ils viennent pour faire de l'argent très rapidement, il n'y a pas d'investissement durable, à la différence des Allemands, ce qui est souvent souligné, qui investissent en capital et développent des industries, en Hongrie par exemple, et que, en plus, ces multinationales à dominante américaine, souvent s'appuient sur les secteurs parallèles, sur l'argent, sur le travail au noir, pour avoir une rentabilité immédiate et maximale. Alors, tout ceci, quand même, va soulever progressivement, je crois, des oppositions. En tout cas, faut l'espérer. Il me semble voir poindre quelques oppositions dans ces différents pays face aux États-Unis, face à la logique de corruption. Alors, c'est là où je veux en venir par rapport à la Russie. Aujourd'hui, la Russie est frappée d'un grand phénomène de déstabilisation voulu par Washington dans sa périphérie, à travers la manipulation par Washington d'ONG, d'organismes comme Freedom House, qui s'investissent sur le terreau civil, syndicats étudiants, syndicats dans l'industrie, et qui, en quelque sorte, orientent et pilotent des révolutions douces. Moscou voit très bien que c'est un danger pour ses intérêts et pour la stabilité même de l'Europe, que c'est une poursuite de l'atlantisation de l'Europe, et ces pays d'Europe centrale le voient de plus en plus. Et il y a, je crois, un intérêt commun qui va se dégager dans les années futures dans la lutte contre la corruption par les Américains de l'Europe. La corruption, je dis bien la corruption, des élites politiques, médiatiques, économiques par l'Europe. Alors vous me direz, les Russes, ils sont pas tout à fait nets là-dessus. Il y a aussi beaucoup de mafias russes, etc. Mais il y a quand même, je crois, un consensus croissant entre un certain nombre de couches de la population des pays d'Europe centrale, peut-être moins pour l'instant d'Europe orientale, à travailler avec les Russes. Il n'y a pas tant d'opposition qu'on ne le dit, c'est ça que je veux dire. Et dans les milieux nationalistes des pays d'Europe centrale, on regarde avec bienveillance la possibilité de retravailler avec les Russes. Et ça, c'est un signe d'espoir.
Et d'ailleurs, les privatisations des secteurs énergétiques de ces pays-là, qu'on fait en Bulgarie la semaine dernière, sont régulièrement remportées par des entreprises russes. Grégoire Gambier.
Oui, Aymeric Choprade, vous avez parlé de l'instrumentalisation, à juste titre, des ONG par des États, en l'espèce les États-Unis, aux marches de l'ex-empire russe, de la corruption, des mafias russes. Très bien, tout ceci, ce sont donc des nouveaux acteurs, en fait, les ONG, les mafias, donc les organisations criminelles transnationales au sens plus large, les organisations internationales ou transnationales, même évidemment là pour le coup légales et même souhaitées. Comment ces nouveaux acteurs et les entreprises entreprises. Bien sûr que j'oubliais, 51 des 100 premières puissances financières au monde sont des entreprises et non plus des États. Comment ces nouveaux acteurs sont intégrés dans votre vision donc géopolitique des rapports de force, parce que c'est souvent le reproche que l'on fait à la géopolitique traditionnelle, néo-réaliste, même néo-réaliste, c'est de ne considérer que les États, sous prétexte que ce sont évidemment les seuls sujets de droit international, comme les acteurs et les moteurs de l'histoire, alors qu'on voit bien qu'émergent d'autres acteurs souvent plus puissants.
Alors, c'est pas du tout ma vision. C'est vrai que, bon, vous savez, quand vous travaillez en géopolitique, les premières années, vous allez vous focaliser sur un certain nombre d'acteurs, et puis les choses évoluent. Les premières années de géopolitique, si je puis dire, ont été concentrées sur la volonté, effectivement, de réhabiliter un peu l'État en tant que moteur de puissance dans les relations internationales, en disant un peu contre un badi, attendez, on n'est pas dans le village mondial non plus, il y a des intérêts de puissance, et c'est pas parce que les États européens auto-abolissent en quelque sorte leur souveraineté dans un projet européen dont on ne sait pas très bien effectivement qui contrôle quoi, que la souveraineté étatique en tant que telle est abolie. Il y a une politique de souveraineté américaine, il y a une politique de souveraineté russe, indienne, chinoise, et même des petits et des nouvelles souverainetés étatiques sont souvent très affirmées, comme celle d'Asie centrale, etc. Bon. Donc c'était la première phase. Aujourd'hui, je travaille de plus en plus en complémentarité sur l'architecture de pouvoir transétatique, c'est-à-dire sur les réseaux. Et on en vient à la question européenne. Il est quand même frappant de voir qu'aujourd'hui, une grande partie des acteurs de la construction européenne, une partie significative des commissaires européens, de nombreux parlementaires, sont affiliés. Et c'est important de le savoir, sont affiliés à des réseaux anciens qui font partie d'une architecture de pouvoir dont les moteurs principaux sont aux États-Unis. Vous avez quelqu'un comme Pascal Lamy, fait partie de la commission trilatérale, qui elle-même est liée au Council for Foreign Relations. Ce sont de très vieux réseaux politico-économiques pénétrés plus ou moins par la CIA et souvent plus que moins, et qui n'ont pas d'équivalent stricto sensu européen. Alors, je suis pas en train de vous faire la théorie du complot en disant il y a un complot mondial installé au fond de la mer, etc., avec un gouvernement mondial. Je suis simplement en train de constater, pour que tout le monde se rassure sur ma santé mentale, simplement en train de constater qu'à côté, si vous voulez, des États, des intérêts de puissance, il y a aussi des réseaux qui sont des réseaux tout à fait efficaces, que ces réseaux font partie d'une tradition anglo-saxonne et américaine après avoir été anglaise, qui permet de faire rentrer des acteurs de la construction européenne, de les orienter, voire pour certains de les corrompre, de les tenir par un certain nombre de faits. Et ça, l'Europe n'a pas ces réseaux-là. Donc, tant que l'Europe n'aura pas ce type de réseau euro-européen, comment pourra-t-on penser un véritable pouvoir européen ? C'est quand même problématique de savoir que un certain nombre de commissaires européens fonctionnent, sont labellisés sur les principaux grands réseaux américains. Moi, ça, personnellement, ça me paraît très contradictoire avec l'idée d'Europe puissance.
Justement, quel jugement portez-vous globalement sur les think tanks allemands, qui sont les seuls qui existent quasiment en Europe continentale, on met à part les Anglais qui ont leur propre stratégie de puissance et vision du monde, sont-ils efficients, sont-ils à même de renouveler cette approche géopolitique, donc évidemment essentiellement continentale, donc à la fois franco-allemande et globalement européenne, ou est-ce là aussi un leurre, ça ronronne et ça n'a rien à voir avec les vrais réseaux d'influence anglo-saxons.
Les think tanks allemands qui sont liés à des fondations allemandes, en fait, pour l'instant sont plutôt concentrés sur des problématiques de géopolitique européenne intérieure, sur des problématiques de minorité, ce qui est conforme à l'Allemagne et à des minorités germaniques, etc. Oui. Je ne dis pas que c'est le retour d'un pan-germanisme. Disons la volonté, dans un monde où il y a de plus en plus de leviers d'influence culturelle, de reconstituer un peu des solidarités culturelles avec des minorités allemandes. Alors, malheureusement, c'est interprété d'une manière un peu, un peu paranoïaque par un certain nombre de nos amis, qui, à mon avis, à tort, se focalise trop sur l'Allemagne. L'Allemagne, dans un monde où il y a de plus en plus de réseaux, cherche, c'est vrai, à reconstituer un certain nombre de leviers économiques, de leviers culturels en s'appuyant sur ces minorités. Après tout, on fait bien ça dans la francophonie, c'est aussi un levier d'influence. En soi, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir annexion des Sudètes demain, etc. Donc il faut quand même, là aussi, raison garder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque avec les Allemands, c'est que leur think tank ne travaille pas sur une vision vision internationale sur l'Allemagne. Au plan international. Sur l'Allemagne, ces convergences possibles avec la France, avec la Russie.
Ils sont peut-être encore un peu castrés quand même par les expériences historiques précédentes.
Je crois surtout que Émeric Chopin le disait, tant que les partenaires potentiels de cette discussion constructive que sont une partie des souverainistes français continuent à se complaire dans l'anti-germanisme, ça n'avancera pas beaucoup sur ce sujet-là. Et il faut aussi qu'une partie de nos amis fasse cette révolution culturelle. Je voulais juste, pour répondre à votre question également, vous vous inquiétiez de la prise en compte par Émeric Chopin des structures post-étatique. Donc je vous informe avec bonheur que c'est l'intégralité de la septième partie de son ouvrage intitulé L'État concurrencé. On aura l'occasion de reparler de cet ouvrage, de le citer en tout cas en fin d'émission.
Oui, je l'ignore pas, simplement j'attirais cette attention, parce que enfin l'attention peut-être plus des auditeurs évidemment que la vôtre, qui est toujours vigilante sur quand même l'ascension, enfin et c'est aussi le discours. N'y a-t-il pas aussi un discours officiel sur le danger croissant, notamment des organisations criminelle transnationale, puisque c'est essentiellement un discours d'essence américaine, hein, que ce soit le terrorisme islamique ou autre, qui voudrait nous pousser à une solidarité de fait des sociétés développées et des États qui les constituent, contre des menaces grises, noires, que l'on nous présente, souvent dans des films d'ailleurs, plus que dans des ouvrages sérieux, et pour nous obliger à une solidarité de fait. C'était plus pour attirer, peut-être, je ne sais pas quel était le sens de la réaction, parce que ce n'est pas toujours bien pris en compte de façon scientifique le rôle, sauf en criminologie, avec notamment Xavier Hofer et le centre de Paris de Assas, bien sûr, mais en dehors de ça, on a l'impression qu'on est plus dans un discours, dans le discours plus que dans la description des faits.
Un complément de Xavier Van Lierre avant
une seconde remarque avant la réponse d'Emeric. Effectivement, il est vrai, Grégoire Gambier, qu'il y a une montée des acteurs post-étatiques, bien des sûr. ONG, des think tanks, des entreprises, c'est un fait. Mais là où il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de penser que ces acteurs post-étatiques seraient également post-nationaux. Or, au contraire, ce qui permet à ces acteurs, principalement anglo-saxons, post-étatiques d'être efficaces, c'est qu'ils ont chevillé au cœur quelque chose de bien plus fort qu'un lien organique. C'est un patriotisme américain très très puissant qui fait que...
Ça, c'est pour les ONG, pas forcément pour les mafias.
Oui, attention, parce que pour les organisations criminelles transnationales...
Les organisations criminelles transnationales...
Les organisations claniques,
et non pas du tout nationales. Principalement, il me semble, des organisations post-étatiques qui apportent de la puissance et concurrencent les États sur le terrain de la puissance, qui, je pense, n'est pas le cas des organisations criminelles transnationales qui cherchent d'autres buts. Pour celles qui sont les ONG, les think tanks ou les entreprises, elles convergent vers un surcroît de puissance, et si elles sont post-étatiques, elles ne sont nullement post-nationales. Et il y a une formule qui est très très bonne dans un récent livre publié par Claude Revel et Eric Dencey, expliquait qu'à propos de ces nouveaux acteurs de puissance, la conspiration n'était pas nécessaire parce que l'inspiration était présente.
Émeric Chopin. Oui, je pensais à... Christian Arbulo va sortir bientôt un livre qui s'appellera La main invisible des puissances. Il est déjà quasiment en librairie avant d'exister physiquement, donc je dévoile pas un secret en le disant, aux éditions Ellipse. Par analogie avec La main invisible du marché, au contraire, effectivement, il y a cette idée que un certain nombre de puissances qui entretiennent un patriotisme économique ont cette capacité à développer des réseaux, une architecture de pouvoir transétatique. Alors, les réseaux américains, c'est particulier parce qu'en fait, il y a à la fois le patriotisme américain dans les racines de ces réseaux, et ce patriotisme vise à l'Amérique-monde. C'est un mondialisme. La construction de l'Amérique-monde qui part de l'idée que les États-Unis en soi sont une société politique idéale, achevée, qui aurait vocation en quelque sorte à devenir le monde ou à être adoptée par le monde entier. Donc, il y a cette spécificité dans l'architecture de pouvoir transétatique américaine que d'être à la fois généré par une dynamique de patriotisme et en même temps de viser au mondialisme. C'est vrai que c'est très particulier. Alors à côté de ça, il y a une capacité, Grégoire le soulignait, à instrumentaliser des réseaux transétatiques sans objectif politique, qui sont des réseaux transétatiques de nature mafieux, criminel. Et ce qu'il faut surtout observer aujourd'hui, plutôt que penser la substitution, un monde qui se substituerait à un autre, les réseaux qui remplaceraient les États, je crois qu'il faut raisonner vraiment sur les complémentarités, les combinaisons. Les acteurs étatiques restent, sauf ceux qui ont décidé de disparaître, mais personne ne les regrettera.
Les États effondrés qui sont justement devenus des zones grises, comme il y en a pas mal en Afrique.
Alors des États qui s'effondrent, d'autres qui renaissent, faut pas oublier qu'il y a des souverainetés qui réapparaissent, d'autres qui disparaissent. Bon, et puis En fait, les relations internationales aujourd'hui, c'est la combinaison entre trois types d'acteurs. Les acteurs étatiques, les États, les acteurs qui sont organisés à l'intérieur des États, un mouvement de guérilla qu'on appelle acteurs intra-étatiques, et les acteurs trans-étatiques, les réseaux. Donc ce sont les trois types d'acteurs qui élaborent des combinaisons très complexes aujourd'hui et qui animent les relations internationales. Et je crois que c'est sur ce point qu'il faut travailler.
On retrouve la théorie des trois échiquiers de Christian Arbulot avec d'autres acteurs d'ailleurs un petit peu.
Lui est plus sur l'économie, mais oui, on est en complémentarité, si vous voulez.
Question d'Olivier Lebrun.
Oui, effectivement, les controverses géopolitiques et les différentes théories ont ceci d'un peu déroutant qu'elles sont un peu désincarnées théoriques. On peut du moins les percevoir comme telles quand on n'est pas complètement dans le débat, qu'on ne connaît pas les différentes écoles. Et quand on discute géopolitique, je pense assez rapidement aux questions de défense et sécurité qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je voudrais qu'on aborde le thème à côté de ce que contrôle, de ce qu'influence, de ce que manipule et de ce qu'inspirent les États, de ce qu'ils subissent. Et sans le contrôler. À côté de la géopolitique classique, il me semble qu'il y a la dialectique conflictuelle des intérêts nationaux dans l'arène de puissance. Il y a une géopolitique qu'on pourrait appeler une géopolitique de proximité, quasiment la géopolitique des migrations. Comment est-ce qu'on peut la penser? Est-ce que c'est pas là que se situent les vrais enjeux? Est-ce que dans 30 ans, l'entité géopolitique européenne aura une quelconque pertinence si elle est minée par des conflits ethniques et des fractures internes aux pays, aux nations, aux entités qui la composent. Est-ce que les vrais enjeux ne sont pas là, effectivement?
Mais si, mais c'est pas à opposer à ce que je disais. C'est-à-dire que si vous raisonnez en géopolitique, faut raisonner sur des acteurs de puissance. Qui a une capacité de puissance? Il y a ces États, il y a ces acteurs intra-étatiques et il y a les réseaux. Alors, l'immigration, par exemple, si vous considérez le problème de la cohésion d'un État, eh bien, un État qui accueille une immigration très forte, qui ne s'intègre pas, ou qui un État comme la France qui ne fabriquerait plus des Français en quelque sorte, peut voir émerger un acteur.
C'est un cas d'école, rassurez-nous.
Oui, sans doute. Nous sommes en science-fiction, bien évidemment. Donc, sauf que les auteurs de science-fiction comme Huxley, Orwell, etc., malheureusement, ont souvent eu raison, et le monde de Huxley, hélas, sur le plan moral, bien souvent en train de s'édifier. Alors, sur la question de l'immigration, peuvent se constituer, et se constitueront sans doute sur le sol européen, des acteurs intra-étatiques, des mouvements organisés, certains appellent ça des communautarismes au sens visant les pouvoirs centraux, cherchant à jouer un jeu politique propre.
On parle d'immigration extra-européenne.
Bien sûr. Bien sûr, l'immigration extra-européenne de choc de civilisation qui fait que ces acteurs en tant que tels peuvent développer une capacité d'autonomie culturelle, s'appuyer sur des États musulmans à l'extérieur de l'Europe. Mais là encore, on est dans la combinaison acteurs intra-étatiques, réseau et un acteur étatique ou plusieurs, un État musulman à l'extérieur qui va soutenir telle et telle logique intra-étatique en Europe. Donc la géopolitique prend en compte ça. En tout cas, moi, je prends en compte cela, et la question de l'immigration est aussi prise en compte dans mes écrits, et je crois que je la prendrai de plus en plus en compte, d'autant plus que c'est vraiment un des problèmes, je dirais, terrifiants de l'Europe. C'est-à-dire que à quoi ça sert de construire institutionnellement l'Europe si l'Europe se vide des Européens? Elle se vide démographiquement des Européens qui vieillissent. Hein. Aujourd'hui, il y a trois fois plus d'apports d'immigration extra-européen que de naissance de souches européennes. Donc trois fois plus, hein, c'est très clair. Ça veut dire qu'à la fin du siècle, les Européens de souche seront minoritaires. Quel sens a le projet européen si on s'attache pas à cette question de l'identité, qu'on le veuille ou non, est en amont du culturel un problème ethnique?
Patrick Péel.
Oui, en revenant justement sur les deux derniers sujets, en parlant des lobbies et de l'immigration, parce qu'en fait, quand on regarde la France, est-ce que c'est pas le pays qui est le plus faible vis-à-vis d'une Europe communautaire? Parce qu'on s'aperçoit que sur le plan des lobbies, que ce soit les anglo-saxons ou les allemands, bah chez nous, il n'y a strictement rien. On pourrait reprendre aussi le cas de l'Italie, par exemple. Le communautarisme n'existe pas chez nous, et effectivement, on a du mal beaucoup plus que les autres pays européens à digérer cette immigration. Donc, cette nouvelle Europe qui va se créer effectivement avec un afflux d'immigration, avec un lobby fort anglo-saxon, est-ce que la France est en fait pas le pays le plus faible le jour où cette Europe va vraiment exister?
L'homme malade de l'Europe?
Ouais.
Elle a une faiblesse plus forte que les autres, c'est que je crois que tout simplement quantitativement elle a plus d'immigration extra-européenne et de plus en plus, et que ça n'est pas pris en compte par ses élites. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, je préfère quand même la logique française assez radicale, le mot est fort, mais disons plus sévère, plus stricte sur la lutte contre les réseaux islamistes que les Anglais. Je trouve que les Anglais ont trop toléré l'établissement de réseaux à travers justement le communautarisme musulman. Je crois que la vision française de ce point de vue est plus sage, parce qu'on a quand même un peu plus lutté que les Anglais contre les réseaux islamistes, et que sur le long terme, cette connaissance du terreau musulman nous donne peut-être un avantage le moment venu pour, si on le souhaite et si nos politiques veulent bien s'en donner la peine, de prendre des mesures beaucoup plus strictes. Aujourd'hui, les autorités françaises n'agissent pas, mais elles savent quand même pas mal de choses. Peut-être plus que dans d'autres pays européens. Ça, c'est quand même un atout. En revanche, moi, je suis évidemment catastrophé de voir que, la question de la montée en puissance démographique de populations de souche extra-européenne, africaine, donc du continent africain, donc Maghreb, Afrique subsaharienne, et donc turque, n'est pas prise en compte. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, dans le sud, dans ce que les Marocains appellent leur province du sud, dans le Sahara. Et j'ai pu discuter avec des autorités militaires marocaines qui me parlaient de leur mur. Ils ont construit, dans le cadre de la lutte contre le Polisario, un mur de 3000 km dans le désert. Eh bien, un général marocain me disait « Vous n'avez pas conscience de l'immigration que ce mur arrête aujourd'hui. » Plusieurs millions d'Africains, d'Afrique subsaharienne, passeraient s'il n'y avait pas ce mur. Mais ce mur, demain, on nous dira, il faut le démanteler, parce que vous comprenez, les murs, c'est pas très bon pour les droits de l'homme, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigration qui passe par voie de bateau et qui remonte à travers le Maroc vers l'Espagne. Mais il faut savoir que la pression migratoire venant d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, elle est colossale sur les franges sahariennes des États du Maghreb. Elle est colossale. Et en fait, ce sont les Marocains, et ce sont les Tunisiens, et ce sont les Algériens qui demain, vous verrez, nous diront « faites quelque chose, nous sommes débordés parce que l'Afrique subsaharienne s'effondre ». Alors, il y a toujours une immigration maghrébine, mais elle est faible. Aujourd'hui, le défi, c'est l'immigration turque, c'est l'immigration d'Afrique subsaharienne. Et c'est l'immigration asiatique aussi qui est en train d'arriver très rapidement.
La Libye a vécu cette situation en concentré il y a quelques années, puisque Kadhafi avait appelé très clairement une immigration venant en particulier du Nigeria. Ça s'est fini dans un bain de sang, et
une dizaine
de milliers d'immigrés africains ont repassé la frontière libyenne en sens inverse, poursuivis par les Libyens qui les avaient massacrés. Donc ils connaissent effectivement bien la situation.
Alors, on va rappeler à nos auditeurs qu'ils sont bien sur Radio Courtoisie lors de ces chroniques de la vieille Europe, qui ont l'air particulièrement appréciés ce soir, et c'est tout le mérite d'Emeric Choprade. Un auditeur nous demande, monsieur Choprade, pourrait-il dresser une carte des principaux réseaux à l'échelle mondiale? Mais il ne va pas le faire maintenant, en revanche il l'a fait, donc c'est disponible, et puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, je propose à cet auditeur et aux autres de découvrir cela dans le livre Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire, donc c'est déjà la deuxième édition, écrit par Emeric Choprade aux éditions Ellipse. Donc on va redonner les coordonnées de ce livre, Géopolitique, constantes et changements dans l'histoire, par Aymeric Chauprade, aux éditions Ellipse. Un auditeur réagit sur les propos que nous avons dit tout à l'heure sur les industriels français qui n'investissent pas. Non, les industriels français ne sont pas timides, leurs entreprises sont épuisées par les charges sociales. Sur le reste, vous avez tout à fait raison. Merci pour cette émission très intelligente comme toujours. Je crois qu'en l'espèce, on peut maintenir le fait que sur un certain nombre de marchés, y compris la Chine, les industriels français sont plutôt timorés et même ceux qui ont les moyens d'investir ne le font pas souvent à bon escient et ne sont pas ceux qui ont le plus d'audace en grande masse.
Dit, si vous permettez, sur la Chine, c'est pas simple quand même, parce que les Chinois demandent quand même des transferts de technologies importants, et le problème est de savoir, quand vous investissez, si ça va être durable ou si c'est simplement un transfert et rien derrière. Et je dirais aujourd'hui, j'ai discuté récemment avec un industriel français qui disait que, malheureusement, la Russie a une mauvaise image, mauvaise presse, mais au fond, on peut gagner durablement beaucoup plus d'argent en Russie aujourd'hui qu'en Chine. Alors c'est peut-être à méditer, et c'est aussi géopolitiquement peut-être plus cohérent.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'une certaine image de la Russie est entretenue, pour décourager d'éventuels investisseurs. On parlait de la Chine, et puis on a fait allusion en début d'émission. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans le bras de fer pour la puissance entre les États-Unis et l'Europe, l'apparition du nouveau concurrent chinois conduise les États-Unis à se rendre compte que, mine de rien, l'affaiblissement programmé de l'Europe qu'ils ont entamé, eh bien, ma foi, est peut-être un mauvais calcul, et qu'on a plutôt besoin d'une Europe occidentale performante pour faire face à la Chine, et donc assister à une espèce de renversement de tendance géopolitique qui d'ailleurs remettrait dans le camp des ennemis la Russie, qui n'aura pas réussi sa fusion avec l'Europe occidentale, et donc revenir à une espèce de schéma qui serait l'atlantisme et l'Occident contre les puissances de l'Est.
Encore de la science-fiction, bravo.
Posons des hypothèses, Grégoire Gambier.
En tout cas, c'est me semble-t-il pas ce qui se passe pour l'instant. Ce qui se passe pour l'instant, en tout cas ce qui apparaît dans les textes de géopolitique américaine, c'est bien la centralité de la Chine. Et pour eux, c'est plus l'URSS, c'est la Chine qui va être l'adversaire central demain. Mais pour contrer cet adversaire chinois, les schémas géopolitiques américains visent à construire un bloc transatlantique solide, à se rapprocher des frontières de la Chine, à intégrer demain dans l'Europe jusqu'à l'Asie centrale, jusqu'au Kyrgyzstan. Parce que après les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, ce qu'on ne dit pas aux Français à propos de la construction européenne, c'est que le moteur de puissance américain vise à étendre les frontières de l'OTAN et de l'Union européenne jusqu'aux frontières de la Russie et de la Chine, et que tout ceci s'inscrit bien dans une logique de dualité, bloc transatlantique face à la Chine, avec une tentative effectivement d'alliance d'une Russie qui aurait plus le choix, qui serait complètement étouffé. Alors c'est pas, donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui Washington ne mise pas sur un monde multipolaire pour faire échec, pour contenir la Chine. Elle mise bien sur une bipolarité, une nouvelle bipolarité, comme pendant la guerre froide, une nouvelle opposition. Si vous permettez, je voudrais terminer, je sais pas combien de temps il nous reste.
Bah, je proposais effectivement qu'on conclue
très rapidement, en lançant un appel assez solennel, si vous me permettez, pour dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, et j'ai un certain nombre d'informations pour faire cet appel, pour dire qu'aujourd'hui, en France, s'agissant d'un homme politique, il y a eu des menaces de mort qui ont été portées, s'agissant de la Turquie. Les autorités turques exercent une pression très forte contre un homme politique pour qu'il ne parle pas de la Turquie dans son prochain meeting qui a lieu samedi. Donc soyons clairs, je parle de Philippe de Villiers, qui a eu des menaces très fortes. Et je crois que c'est quand même important que les auditeurs sachent dans quelle atmosphère nous vivons aujourd'hui. Les autorités turques tiennent beaucoup à ce oui. Vous savez que le vote au Parlement de la question du code civil, de la réforme du code civil turc, a été reporté à l'après-référendum au 2 juin. C'est-à-dire que si le oui l'emporte, alors effectivement les Turcs amenderont leur code civil pour entrer dans le processus d'entrée dans l'Union européenne. Et en revanche, s'ils non l'emporte, ils considèrent donc qu'il y a bien une remise en cause de l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui, qui elle-même peut remettre en cause leur propre adhésion. Donc je voudrais dire ça très solennellement à ceux qui nous écoutent. Il faut, je crois, refuser cette idée de pression qui est exercée sur un homme politique, quel qu'il soit, pour les positions qu'il défend, et constater que les Turcs sont très pesants, comme j'ai pu le constater moi-même à Sciences Po récemment dans un débat dont peut-être Grégoire pourrait dire un mot, parce que c'était assez symptomatique aussi de cette atmosphère.
Justement, j'allais rebondir, vous n'avez pas parlé de menaces de mort impunément, enfin, vous parlez de Philippe de Villiers, mais effectivement, j'ai en souvenir, il y a 2-3 semaines, un débat que vous avez animé à Sciences Po, où étaient présents effectivement des représentants du lobby turc, et y compris présents physiquement pour remplir les 2/3 de la salle et opérer une menace à la fois physique et bruyante sur les orateurs qui voulaient être tout simplement critiques à l'égard de la puissance turque, et en tout cas sa prétention à rejoindre l'Union européenne. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a une conjonction, puis certains observateurs nous ont prévenus, nous, animateurs des chroniques de la vieille Europe, que les milieux, les réseaux, puisqu'on parlait des réseaux tout à l'heure pro-turcs, qu'ils soient turcs ou non, appuyés évidemment sur la logique de puissance turque, étaient très mobilisés et, disons, à fleur de peau. Et voilà, ça
et c'est une affaire sérieuse, parce que Philippe de Villiers a obtenu du ministre de l'Intérieur un appui de protection rapprochée pour son meeting de samedi, hein, qui a lieu, je le dis à ceux qui veulent venir soutenir Philippe de Villiers dans son action.
C'est une bonne occasion de
samedi
soutenir, sans doute,
Porte de Versailles. C'est
Porte de Versailles. Philippe de Villiers étant largement celui des hommes politiques de droite les plus intéressants et les plus crédibles dans cette campagne. Alors, merci Aymeric Choprade pour votre intervention. Nous avons énormément de messages qui nous félicitent, qui vous félicitent pour cette émission fort intéressante. Un auditeur demande votre site internet. Avez-vous seulement un site internet ?
Écoutez, si j'en avais un, à mon avis, il vivrait pas un jour.
Bon, alors, on va donc renvoyer cet auditeur à la publication, je crois, qui est assez la plus complète possible, Grégoire Gambier.
Rappelons l'ouvrage le plus important à ce jour, en tout cas d'Aymeric Choprade, Géopolitique constante et changement dans l'histoire. Je dis le plus important parce qu'il est non seulement volumineux, mais surtout très complet et synthétique sur les questions de géopolitique. On peut renvoyer aussi les auditeurs de Radio Courtoisie à la Revue française de géopolitique, dont le numéro 3, si je ne m'abuse, est consacré aux États-Unis. C'est la réactualisation du premier numéro, mais chaque jour qui se passe dans le monde apporte son lot de nouvelles facéties nord-américaines. Et tout simplement, toute la collection, même des ouvrages de géopolitique publiés aux éditions Ellipse, qui apportent à chaque fois des éclairages très intéressants sur les différents sujets qui nous intéressent.
Et vous oubliez Grégoire Sentinelle.
C'est une lettre
tout à fait intéressante, puisqu'on parlait d'Internet. Alors là, pour le coup, en tant que lecteur, je me permettrais de renvoyer nos auditeurs à cette lettre, dans laquelle je trouve moi-même un certain nombre d'informations tout à fait fraîches et tout à fait pertinentes. Je n'ai pas en tête exactement l'adresse de Sentinelle, mais c'est Sentinelle, S-E-N-T-I-N-E-L. Hein.
Oui, vous avez une chronique régulière sur
Internet. Merci Aymeric Choprade, merci Olivier Lebrun. On va laisser quelques minutes, on l'a spolié le pauvre, à Patrick PL pour nous distraire avec quelques brèves qui seront forcément brèves culturelles. Il vous reste 5 minutes Patrick, et puis on laissera 30 secondes à Christophe à Xavier Van Lierde qui veut nous parler d'un journal. Bien, nous reprenons donc dernière 5 minutes, donc 4 minutes 30 à vous Patrick PL, et puis 30 secondes à Xavier Van Lierde.
Ça va être infernal, parce que en ce moment l'actualité culturelle est assez forte, on est en plein festival de Cannes. Alors pour commencer, je vous conseille fortement demain soir de regarder pour une fois la télévision sur Arte Underground de Costa Rica passe, et si vous n'avez pas le temps de le voir, je vous recommande d'acheter le DVD collector qui vient juste de sortir aux éditions TF1. Alors, on n'a pas
On ne cite pas souvent TF1, mais là, pour cette fois-ci, ils ont fait un reportage de 75 minutes sur la préparation du film et un interview exclusif d'Emir Kusturica. Ce film est un monument du cinéma, très controversé à sa sortie. Il nous montre l'histoire de l'ex-Yougoslavie de 1941 à nos jours, à travers l'histoire de la vie de Blacky. Vision qui ne correspond pas beaucoup à l'image médiatique de l'époque. Il faut savoir que ce film avait fait scandale. Alors, Emir Kusturica, qui est en ce moment président du jury à Cannes, ce qui est une bonne chose pour le choix de la Palme, et lors d'un interview, voici comment il définit son rôle de président. Je le cite, « Être démocratique, c'est très difficile. Pour moi, le cinéma par nature n'est pas d'une qualité parallèle à celle de la démocratie. Il y aura un certain consensus, mais pas de démocratie, s'engageant à ce que le jury préserve une norme d'excellence en fonction avant tout de critères esthétiques. » Sincèrement, je crois que c'est un bon président.
Oui, on dirait du Milosevic.
Hein,
c'est beau.
Ou du Benoît XVI.
Vous faites un peu de provocation là, à ce niveau-là. Du côté français, le seul film intéressant, ce sera, enfin, je l'ai pas encore vu, on verra lors de sa sortie, c'est Joyeux Noël de Christian Carion, qui raconte l'histoire vraie d'une fraternisation entre soldats allemands, français et écossais dans la nuit de Noël 1914. C'est une coproduction très européenne, car les Belges, les Roumains, les Français, les Allemands et les Britanniques ont mis de l'argent dans ce film. La date de sortie, décembre 2005. Et c'est aussi en décembre que va déferler la nouvelle grande saga fantastique. Après Le Seigneur des Anneaux, voici les chroniques de Narnia, d'après l'œuvre de Clive Staple Lewis. En Angleterre, il y a deux grands auteurs de contes fantastiques, Tolkien et Lewis. Beaucoup moins connu que Tolkien, Lewis est irlandais. Il sera un grand ami de Tolkien et partagera sa passion pour la mythologie. Professeur de littérature anglaise de la Renaissance et du Moyen-Âge à l'université de Cambridge, esprit passionnément libre, doué d'un imaginaire très riche, Lewis fut un orateur talentueux et un brillant écrivain. Il excella à la fois dans la fiction, le conte pour enfants et les études littéraires. Il fut aussi l'un des plus éminents philosophes chrétiens du XXe siècle. Il n'existait à ce jour que la traduction des trois premiers volumes de sa saga, qui en compte sept. Alors avec le succès du Seigneur des Anneaux, la Folio Junior les a tous sortis. Et en décembre, c'est Disney qui sortira le premier film d'après les deux premiers livres. Les effets spéciaux qui ont été faits par la société qui travaille sur le film de Peter Jackson. Je vous avoue que je n'ai vu que la bande-annonce et elle est monumentale. Donc en attendant décembre, lisez et faites lire les 7 volumes à vos enfants. Un monde merveilleux et d'une richesse mythologique incroyable. On pourrait faire un reproche à Lewis. C'est toujours bon. C'est le mélange d'une mythologie païenne avec une approche très chrétienne. Lewis était athée et ne se convertit au christianisme que tardivement, ce qui rend l'histoire un peu trop basique entre le bien et le mal. Enfin, Lewis était protestant, je précise. Et j'ai un peu peur que Disney en rajoute une grosse couche dans ce sens-là. En tout cas, pour les passionnés de philosophie chrétienne, Lewis a écrit des essais remarquables et j'espère que nous pouvons encore les trouver. Mais n'étant pas calé sur ce sujet, je vous conseille fortement de faire vos propres recherches, car Lewis est un esprit brillant. Décédé en 1963, Lewis est aujourd'hui aussi estimé des enfants que des théologiens. Peut-être qu'autour de cette table, vous avez un mot à dire, Lewis, sur Lewis, Philippe, depuis que votre conversion papiste...
Oui, un enfant théologien. Hein,
le temps nous manque, on va profiter de cette interruption.
Attendez,
pour donner 30 secondes.
Je donne simplement les références, les chroniques de Narnia aux éditions Folio Junior. Il y a 7 volumes, c'est... Avant, il faut d'abord lire les livres avant d'aller voir ce film.
Un volume
fait
par mois,
Disney.
Une fois,
oui.
Et deux en juillet et août. 30 secondes, Xavier Van Lierd.
Oui, au fil de l'émission, on a beaucoup parlé du péril turc, le péril de l'adhésion turque. Je voudrais juste signaler la parution dans tous les kiosques du dernier numéro de The Monde. Je ne sais pas si vous connaissez The Monde. The Monde n'est à ne pas confondre, ou plutôt à confondre avec le célèbre quotidien du soir. Il en est un pastiche, c'est-à-dire qu'il en révèle la vraie nature. Vous vous souvenez peut-être que The Monde avait imaginé lors de la crise irakienne l'invasion de la France par l'US Army, ensuite l'invasion des États-Unis par les forces de l'axe du mal coalisé. Enfin, cette fois, le monde se penche sur l'Europe et la France au lendemain de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Sous ce titre, les 25 ont décidé à Vienne de l'adhésion immédiate de la Turquie à l'Union Européenne. C'est très bien fait, c'est hilarant et c'est donc disponible dans quasiment tous les kiosques en France.
Xavier Van Lierd, merci pour
pour cette ultime boutade. Grégoire Gambier, merci également. Olivier Lebrun, merci également. C'était votre première émission en tant que nouveau chroniqueur des Chroniques de la Vieille Europe. Donc, bienvenue parmi nous.
On fera quand même un sondage auprès des auditeurs pour savoir si on le garde.
Oui, c'est ça. Un sondage auprès de l'auditorat féminin, qui est quand même la quintessence de notre auditorat.
Un panel représentatif.
Oui, oui. Nos épouses, nos mamans, nos tantines. Et on verra si elle garde Olivier.
C'est très démocratique tout ça.
Et on verra Jean-Pax Méfray, son avis, bien sûr.
Patrick PL, merci. Un grand merci à Aymeric Chauffrade pour ses explications pédagogiques et lumineuses. Nous nous retrouverons donc le mois prochain. Il se sera passé beaucoup de choses. Un référendum en France, un référendum aux Pays-Bas. Il ne faudra pas l'oublier parce que c'est quelques jours après et le nom a tout autant le vent en poupe si ce n'est plus qu'en France. Donc beaucoup de choses à se raconter sur les convulsions de cette nouvelle ou vieille Europe. On saura si elle est un peu plus nouvelle ou ou toujours aussi vieille, telle que nous l'aimons. Merci à tous, chers auditeurs. À très bientôt. Bonne soirée.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 18 mai 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 19 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et vos sangs issuels, la honte de l'Occident. Et vos sangs issuels, la honte de l'Occident.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie. Dans un instant, à 21h, les soirées musicales. À minuit, le libre journal d'Alain Griotteret avec l'assistance de Michel. Invité Gabriel Casperette, ancien ministre. Jacques Baudot, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Étienne Taride, avocat, écrivain. William Wolff, éditeur, représentant de l'United Kingdom Independence Party. Michel Caldagues, ancien sénateur, ancien maire du 1er arrondissement de Paris. Réflexion sur le référendum du 29 mai et sur l'avenir de l'Europe. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Invité Nicolas Bay, porte-parole du MNR, Dominique Tassot, ingénieur, et Guy Prival, respectivement président et secrétaire général du Centre d'études et de prospectives sur la science. Arnaud Aron-Upinski, épistémologue, écrivain. Hugues Kerali, journaliste, écrivain. Xavier Dor, médecin, président de l'association SOS Tout Petit. Philippe Christel, consultant international. Grégoire Gambier, journaliste. Xavier Van Lierde, journaliste. Émeric Choprade, éditeur, professeur à l'université de Neuchâtel, écrivain. Olivier Lebrun, journaliste. Patrick Péel, journaliste. Jean-Paul Chériguez de Olmeta, journaliste, écrivain, président d'honneur du syndicat hippique national.